avait, avait un rapport de 14 gendarmes mobiles qui tournent tous les deux mois et des soutiens de réservistes au groupement. Le plan d'action, c'est renforcer une visibilité accrue sur le terrain, c'est-à-dire par plus de présence de gendarmerie et de services de police. La ZFP sert à coordonner les différents services d'État et locaux, gendarmerie, police municipale, pôle jeunesse et médiation et le voisin vigilant. Elle sert aussi à élaborer des plans d'intervention communs, soit sur la route, lors de contrôle ou de différentes affaires à mener. Elle sert aussi à renforcer les crédits FXTD alloués à la vidéosurveillance. Pour les actions de la ZFP. On va faire un petit tableau sur les deux ans, 2013-2014. On voit que la ZFP a amené une baisse au niveau des cambriolages, qui a été surtout effective sur les zones, grâce au renforcement qu'on a vu précédemment de la vidéo sur les zones. Donc, pour les cambriolages, de domicile, on va trop changer une forte baisse par contre sur les cambriolages dans les zones. On voit que les vols liés à l'automobile sont aussi en baisse sur les deux premières années. On voit par contre que les atteintes volontaires à l'intégrité des personnes sont en légère hausse et que les infractions relevées par la zone de service sont aussi à moins. Alors, je vous fais l'intermédiaire des services de l'État par l'intermédiaire dit qu'une ZFP pour qu'elle soit efficace, il faut que les deux dernières colonnes, atteinte volontaire à l'intégrité, infraction relevée, soient en augmentation. Ce qu'on attendait finalement de la mise en place de la ZFP. Le but c'est de faire descendre les deux premières colonnes et de mettre à la hausse par des contrôles plus réguliers les deux autres. Donc, pour eux, l'objectif à 5. Alors, bilan de la ZFP 2 ans, résultat opérationnel et judiciaire encourageant, accroissement de la présence de gendarmerie répondant aux attentes de la population locale, déclin de la délinquance de proximité, réponse pénale rapide et forte. Ils ont mené beaucoup d'opérations marquantes contre l'économie souterraine. L'économie souterraine, c'est les pratiques. Pour 2015, la ZFP va se consacrer à la lutte contre la délinquance des mineurs en priorité. Donc en commun, avec le projet d'intimidation, les voisins vigilants, la police municipale de Mobio, et bien sûr la gendarmerie qui est porteuse de la ZFP. Voilà pour le bilan des deux premières années.
Alors effectivement, peut-être certains ont été étonnés de ne voir apparaître que le nom de Mobio. Effectivement, sur notre demande, les services d'État n'ont pas voulu différencier Carnot de Mobio, si ce n'est par l'acceptation d'un financement au niveau des dispositifs de sécurité passive que sont les caméras, nous avons obtenu le financement de la moitié de 150 000 euros, je pense que c'est. C'est ça. Donc la moitié de 150 000 euros pour positionner 8 caméras dans les semaines qui viennent à Carnot. Voilà. Donc l'effet dissuasif auquel s'ajoute bien sûr les renforts estivaux. 50 gendarmes mobiles sont affectés de Palavas à la Grande Motte à une quantité plus importante qu'elle n'était par le passé, du fait que nous sommes dans la zone de sécurité prioritaire comme les panneaux de la brigade de Lunel. Voilà. Donc ces résultats ne sont pas parfaits, ils sont encourageants, et nous essaierons de déployer sur Carnot les mêmes effets que ceux que nous avons constatés sur Mobile. Merci, M. Pétroir. Donc, nous passons maintenant aux décisions municipales diverses en vertu de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. J'informe l'Assemblée que depuis la dernière séance, j'ai pris les décisions suivantes, conformément à l'article que je viens de citer. Alors, en page 1, nous avons donc la réalisation d'un contrat de prêt au montant de 420 000 euros pour l'Église agricole pour le financement des travaux relatifs à l'aménagement des pontons GHBI du port de Carnon, dont l'opération, vous le voyez, s'élève à 696 000 euros. Et donc, notre adjointe, Denis Grand et Mme Banque ont parfaitement négocié le prêt puisque nous avons un taux fixe à 2,91 sur 20 ans. Voilà, donc nous espérons que les installations tiendront plus que la durée du prêt. Nous avons ensuite des contrats de spectacle et d'intervention culturelle. Donc je vous fais grâce du déroulé, puisqu'il s'agit de contrats relatifs à la culture, dont les sommes ne méritent peut-être pas un commentaire spécifique, à moins que l'un d'entre vous le désire d'en savoir un petit peu plus. Nous passons ensuite à la strate des procédures d'entrée comprises entre 15 000 et 90 000 euros hors taxes. Donc, vous avez également tous les marchés qui ont été passés. Je n'en fais pas forcément de commentaires. Et ensuite, les procédures d'entrée.
Excusez-moi.
Oui, Madame Commando. Oui.
Je m'inquiète de la manière dont a été décidée l'installation et la maintenance de nurseries artificielles. Parce que je me demande s'il n'y a pas eu de concertation avec la prud'homie des pêcheurs de Carnon. Où ont été situées ces cages? Si c'est près du gros, elle risque de bloquer les embâcles. Si c'est au fond du port, elle risque de bénéficier de la pollution puisqu'il y a des bâtiments et des restaurants qui ont, pas du tout à l'égout, mais qui ont du tout au port. Donc notre pavillon bleu est en péril. Et d'autre part, je me pose la question sur le bénéfice écologique, étant donné que les poissons adultes ont besoin de manger des petits poissons, s'ils ne le font pas, ils ne deviendront pas gros poissons, et les multiples petits poissons devenus adultes ne trouveront pas assez de nourriture.
Alors,
donc, quid de la chaîne alimentaire, quid des cormorans. Donc, ce procédé a été inventé pour PACA sur pour des fonds rocheux quand on a créé des nouveaux ports avec des zones bétonnées. Donc, il y a beaucoup de questions, le coût de l'entretien, le risque pour la navigation et le risque des amarrages de ces engins. Donc, je suis étonnée qu'il n'y ait pas eu de concertation autour de ce projet.
Alors, deux possibilités. Soit nous répondons tout de suite, Monsieur Balsamon, qui est notre spécialiste des fonds marins, Monsieur Cranon-Ouest, ça fera un plaisir de vous répondre, soit Madame Comarlos, tout à l'heure, quand nous abordons le point qui est l'ordre du jour. Si vous voulez, vous voulez qu'on vous réponde tout de suite,
on ne fait pas le Le point à l'ordre du jour,
oui.
C'est la subvention demandée,
bon.
Mais c'est pas
sur le
l'opportunité sur, d'un tel projet.
Alors, sur le fond, Monsieur Balsamon, vous avez deux minutes pour répondre.
Alors, ça va être rapide, Madame Comarnous. Concernant l'emplacement de ces nurseries, encore, rien n'a été posé, puisque justement, dans le budget, nous avons des ingénieurs qui vont venir essayer de voir les emplacements le plus productif pour installer ces nurseries. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui l'emplacement où seront les nurseries.
Donc, est-ce que la prud'homie des pêcheurs pourra être associée?
Pourquoi?
Et est-ce que vous aussi, vous pourriez valider? Ça serait sympathique.
Mais écoutez, je vous inviterai lorsqu'on aura les résultats des emplacements. Vous savez, moi, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un ingénieur, je ne connais pas toute la problématique des courants. On m'a dit tout ça, etc. Vous avez bien soulevé, je n'ai pas vu. On ne va pas les installer n'importe où. Hein, c'est fait par des ingénieurs.
Hein. Non, mais je...
Ce sont des ingénieurs qui ont déjà vu dans plusieurs ports du landau Roussillon installer. On n'est pas les premiers, c'est une expérience. Ça existe, ça fonctionne. Voilà.
Non, mais je me pose des questions parce qu'il y a un bureau d'études qui a envie de faire des projets de casiers, de ces casiers, mais je voudrais savoir si c'est vraiment opportun pour nous. Donc il y a plein de questions à lui poser. Donc associé à votre réflexion, je dirais, les personnes qui ont des compétences dans ce domaine-là, que ce soit la prise de pêcheurs ou ma propre petite personne. Voilà, merci.
Merci de votre patience.
Bien. Une heure cerise, c'est toujours le problème. Ensuite, procédure adaptée. Marché supérieur 90 000 euros. Il y a des produits sur le musique. Le marché de communication, création de support d'impression et de production de chaussées et trottoirs. Avec ensuite des arénales, où je porte à votre connaissance le matériel au niveau des études relatives à la prévention et la protection contre les inondations du zone enjeu situé à l'est de la zone urbaine de Mouillon. La tâche conditionnelle s'élève à 10 137,60 et 10 197,60. Et le total de l'avalan est de 3052,80 et non pas 2128,80. Voilà. Bien, nous passons maintenant au point numéro 2, qui est relatif à l'élection des 6 délégués communautaires au Conseil d'agglomération du Pays de l'Orne. À l'application des dispositions visées par l'arrêté préfectoral numéro 2015-1-531 du 24 avril 2015, et notamment à l'article L52-2 portant modification de la composition de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération de Ville de l'Or, dans le cadre de les élections municipales et communautaires de la commune de Palavas, les plots, et suite au conseil municipal du 7 avril dernier, il convient de procéder à l'élection des 6 délégués communautaires au conseil d'agglomération du Ville de l'Or. Voilà, donc c'était, vous le savez, c'est une délibération qui a été prise dernier conseil municipal, et donc également un conseil communautaire auprès duquel nous devons rapporter la complémentarité de ces 6 élus. Alors, je vais vous proposer la liste suivante. Christian Claverie, Sophie Trampagne, Jacques Travers, Sophie Aiglem, Laurent Vénet, Patricia Roulette-Trafort. Et je demande s'il y a d'autres candidats. Alors, Madame Grèce, en note, vous me donnez la composition de votre liste, s'il vous plaît.
Une seule candidature.
Très bien. Qui est c'est la vôtre.
C'est
la mienne, pardon. Très bien. Ensuite, c'est Gabriel Fidi.
Une seule candidature.
Très bien. Madame Muller.
Une seule candidature.
Très bien. La vôtre. Et là, vous êtes déjà. Ah non, c'était pas.
Non.
Donc, on va vous distribuer les bulletins. Alors, voilà. On vous propose, on va vous donner une liste entière, une liste avec un bulletin blanc sur lequel vous consignerez. À moins que.
Voilà. On a moins besoin de ce qu'on va de vote. Non. Vous l'avez pas. Alors, si. Alors, déjà, quelques fois, vous avez bien de vote sur le nom. Monsieur Bonguet, je m'assure que vous avez votre matériel de vote.
Pardon?
Je m'assure que vous ayez votre matériel de vote.
Oui, c'est bon. J'en ai même deux.
Mais justement. Vous voyez que je pense maintenant au
tour.
Liste du groupe majoritaire, 24 voix. Liste, alors, qui correspondent à un coefficient de 5,33, donc 4 sièges. Deuxième tour. C'est bon. Je vais amener monsieur Dunn de le commenter. Non, mais c'est bon. C'est une élection. C'est une élection avec répartition du reste à la plus forte moyenne. Donc, le vote se fait en plusieurs temps. On calcule le quotient électoral avec les suffrages exprimés. Donc, l'abstention ne rentre pas dans le calcul du quotient électoral. Nous avons 32 voix exprimées et 6 sièges à pourvoi. Le quotient est de 5,33. Donc, au premier tour, la liste 1 obtient 4 sièges. Au deuxième tour, la liste 1 obtient 1 siège. Et au troisième tour, la liste 1 et la liste 2 de Mme Grèce sont à égalité, et dans le cas d'égalité de voix, c'est la liste qui obtient le plus de suffrages qui remporte le dernier siège. La liste de M. Bourrel remporte les 6 sièges.
Excusez-moi, je ne suis pas du tout d'accord. J'ai eu contact avec la préfecture aujourd'hui même, et donc j'ai un mail de la préfecture qui me dit que dans ce cas-là, c'est la plus âgée des deux candidates qui emporte le siège. Et j'ai un mail de la préfecture d'aujourd'hui. Je peux vous l'envoyer ce soir.
Sous réserve de cette interprétation, la sentence, le verdict, le résultat du vote sera rendu. Donc, avec le calcul, on va inhabituel. Oui, disons qu'il y a une appréciation, vous visiez dans le café, monsieur.
Non, oui, je connaissais les résultats avant l'élection.
Ah bon?
Donc j'ai pris la peine de contacter. Donc j'ai pris la peine de contacter la préfecture, parce que justement j'ai interrogé plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y avait doute, et donc j'ai contacté la préfecture.
Bien, donc pour le prochain vote, on présentera M. Broguet directement à manière représentative.
Ah non, parce que je comprends. Hein.
Donc, voilà, juridiquement, vous avez proclamé quel vote, je pense. Juridiquement, j'ai proclamé les 6 élus de la majorité, c'est-à-dire M. Claverie, Mme Crampagne, M. Cravert, Mme Eglène, M. Hénègue, Mme Moulin-Trafort, élu au regard du dépouillement que nous venons de faire.
Donc le résultat est contesté, c'est donc fait.
Oui, tout c'est convié.
Dans les formes, ça sera un petit peu plus formalisé que ça, mais...
Il reste plus qu'à vérifier la carte d'identité de Mme Magret sur la même
tête. Là, j'en sais rien.
Bon, très bien. Point numéro 3.
On a pour la sixième place.
Je ferai un petit commentaire quand même, parce que j'ai fait lors du dernier conseil municipal des déclarations pour justement essayer de rassembler une démarche qui n'est pas de la pièce simple. Et aujourd'hui, il semblerait que, au travers de ce résultat, cette démarche ait été entendue au regard d'une arithmétique qui, au départ, n'était pas celle que je viens de proclamer, à supposer qu'il y a encore un doute sur l'élection du 6e candidat. Donc, chacun a fait valoir ses points de vue, et je remercie celui qui a fait voir un point de vue qui nous a permis d'avoir cette large majorité. Nous en tirerons bien sûr des conséquences. J'espère que cet appel au départ de la ville centre vient petit à petit pour son chemin. Monsieur Capelletti, vous avez la parole.
Merci, monsieur le maire. Il faut juste revenir sont rassemblés sur des sujets importants. Ça n'a pas été le cas. Je regrette surtout la relation avec Daniel, ça va être compliqué maintenant, puisque c'est droit dans le vote. Je dis qu'il y a un an, j'avais pu voter pour lui, et ça n'a pas, le retour n'a pas eu lieu. Et si ça avait eu lieu, j'aurais été représentant également des personnes qui ont dû faire un nom que je représente. De l'autre côté, j'avais bien noté votre appel au rassemblement. Je pense que ça a effectivement dans le bon sens. On a besoin à l'agglomération d'avoir un Mondio Carnot rassemblé au-delà des différents partis politiques. Le rassemblement à 6 ne représente pas toute la diversité de Mondio et de Carnot, il représente la majorité, qui en reste à 30 à 40% des suffrages. Donc c'est dommage, je pense que là aussi une occasion a été ratée pour Mondio Carnot. En conclusion, je dirais que moi, du coup, bien entendu, j'avais aussi étudié les possibilités que j'étais allé faire plus loin, et donc je resterai sur ma ligne d'opposition constructive, mais dès que ce sera possible, avec l'ensemble de ce conseil municipal, en recherche de rassemblement. Si nous voulons peser à la coopération, il faut que le Mondio Carnot soit rassemblé au-delà de ses villages sur les grands sujets. Sinon, on n'aura pas ce qui avance.
Merci pour cette déclaration, M. Capelletti. Nous avons donc besoin de l'ordre, je ne sais pas. Merci.
Je vais juste dire quelque chose sur cette histoire de rassemblement. Bon, je ne vois pas pourquoi. Si Simone Aigret est élue à la communauté d'agglomération, je ne vois pas en quoi elle nuirait aux intérêts de Mouguio. Donc cet argument n'a pour moi aucun sens.
S'il vous plaît, parce que j'ai dit. Bon, c'est votre point de vue. Nous respectons chaque partie d'expliquer. Le but n'est pas de créer un nouvel échange ou une nouvelle polémique. Le dernier conseil municipal à Mongio a largement éclairé la substitution d'un projet de territoire qui aujourd'hui est un projet politique. Et nous avons essayé de redonner, de recentrer les choses comme elles ont été de tout temps, avec bien sûr des sensibilités différentes, ce qui fait la richesse du débat démocratique, où bien entendu la ville centre doit être dans une configuration au sein de l'agglomération, qui reconnaît son importance comme par le passé, ancien président de l'agglomération, qui est considéré les partenaires comme la montre à leur juste valeur, pas la base, et chacun, avec justement des attributions de moyens et de délégation qui n'ont jamais fait l'ombre d'une contestation. Voilà. Merci de vous être exprimé. Feuilleton à suivre, et j'imagine qu'il y aura des rebondissements. Point numéro 3, élection des délégués au conseil d'administration du Collège de l'État de l'Ordre à la suite de la démission de Mme Temple-Moyer. Je précise devant les Garonnais, puisque Mme Temple-Moyer est présente dans la salle, que sa décision qui a été donc annoncée et commentée à l'ancienne municipale à Montréal, ne doit rien à une quelconque mésentente, une quelconque difficulté dans l'exercice de son mandat qu'elle a exercé avec beaucoup de détermination, d'engagement et de compétences, mais par rapport à une complication personnelle, par rapport à sa vie professionnelle, ce qui est tout à fait recevable, et sa présence ce soir témoigne qu'elle ne se dérobe pas. Et Virginie, je te remercie au nom du groupe pour ta présence et pour ce que tu as fait devant tes... Alors, je ne voulais pas dire que quand c'est quand même Mongo, c'est Mongo, mais peut-être ce soir dans la salle, il y a plus de personnes qui te connaissent qu'il y en a à Mongo. Voilà, je tenais à saluer ton travail. Donc, il convient de procéder à la désignation de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants de la commune qui siégeront au sein du conseil d'administration du Collège de l'État de l'Ordre. Voilà, donc j'ai deux candidats avec deux suppléants que je vous dis. Sophie Campagne avec Ariane Sanchez-Bresson comme suppléante. Béatrice Faucompré avec Cathy Moulin, Madame Lettrefort, comme suppléante. Y a-t-il une autre candidature pour cette élection? Je n'en vois pas. Êtes-vous d'accord pour procéder à un vote à 22 B? Donc je propose que nous élisions Sophie Campagne et Béatrice Faucompré comme délégué titulaire au sein du collège de l'État de l'Ordre avec Madame Sanchez-Bresson, Madame Lettrefort comme suppléante. On lève la main, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui sont contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Le quatrième point, il y a une connotation un petit peu garonnaise. protection fonctionnelle à M. Lefebvre et Mme Laurence Génie. La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et dispositions du Code général des collectivités territoriales impose à la collectivité de prendre en charge pour le compte de ses agents ou élus leurs dépenses pénales ainsi que leur protection contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes. Dans le courant du mois de mars et avril dernier, l'association Vive Canon Libre a procédé à plusieurs campagnes d'affichage sur du mobilier urbain communal destiné à l'affichage associatif ou municipal, ainsi que sur le vélo municipal. Ces faits constituent un affichage sauvage, lequel a fait l'objet de rapports de police et d'une plainte auprès du procureur de la République en date du 2 avril 2015. Toutefois, les propos retranscrits dans ces affiches sont diffamants et outrageants à l'égard de M. le maire et de Mme Laurence Gély. C'est pourquoi il est demandé au conseil municipal d'accorder la protection fonctionnelle à M. le maire et à Mme Laurence Gély dans le cadre des procédures liées aux actions judiciaires à l'encontre de l'association Vive Canon Libre et son représentant, M. Daniel Valle. Tout est dit dans cet exposé, puisque depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, malgré des entretiens avec cette personne, cette association, des renseignements qui ont été communiqués, il y a une forme d'acharnement qui touche plusieurs membres de la collectivité qui feront l'objet d'un traitement différent, puisqu'il s'agit également de fonctionnaires de la commune. Et donc, nécessairement, il convient vis-à-vis du conseil municipal de recevoir l'approbation de la protection fonctionnelle qui est statutairement due à tout élu de la République, dont Mme Gély et moi-même faisons partie. Des questions.
Oui,
monsieur.
Juste d'abord préciser une chose, c'est que j'aurais pu être associé à cette procédure parce que moi aussi, dans ces affiches et dans ces tracts, j'ai été diffamé. Moi et mes colistiers d'ailleurs, ils parlent des bourguets et compagnie, etc. Mais voilà, je ne m'associerai pas à la procédure et je m'abstiendrai sur ce sujet. Est-ce que j'aurais souhaité qu'il y ait une médiation, qu'il y ait une rencontre avec Daniel Valle, je ne sais pas si ça a été fait, pour qu'il arrête ses agissements, voilà, sans lui empêcher de mener son combat, mais qu'il arrête de diffamer, je ne sais pas s'il y a une médiation en entreprise, voilà, ce que j'aurais souhaité dire, parce que je connais Daniel Valle, je sais que par ailleurs, voilà, c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être convoqué devant un tribunal, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Donc, monsieur Bourguet, pensez-vous que nous le méritions tout autant? Donc, moi, ma première question.
Non, mais j'ai bien dit, moi aussi, je suis concerné.
Voilà. Alors, monsieur Bourguet, je vous dis très solennellement et de manière très républicaine et sans aucune forme d'interprétation possible, si vous souhaitez être associé à la plainte et à la protection juridique, à la protection fonctionnelle, nous pouvons acter, je peux vous ajouter. Dans la liste, vous, quelqu'un qui le demande.
Oui, je sais, mais je dis que je ne le demanderai pas. Pourtant, j'ai lu ce qui a été écrit sur moi.
Monsieur Bourguet, l'antériorité, je ne ferai pas du mot là-dessus parce que je sais que vous êtes. Vous savez, en principe, jusqu'où on peut aller, des fois le trait est mort. Enfin, je ne vais pas rappeler des souvenirs. Souvenez-vous. Donc. Monsieur Mab a été reçu, Monsieur Gravert l'a reçu à plusieurs reprises, moi-même je l'ai reçu, il y a fort longtemps, Madame Gély l'a reçu. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une municipalité qui n'était pas à l'écoute. Nous sommes bien sûr ouverts au débat démocratique et à cette forme de contestation, tout autant qu'elle reste dans le respect des personnes. Entre l'humour ou ne pas être de griffe, soit. Mais cet acharnement qui relève d'autre chose que d'une simple contestation, d'un simple combat, alors, pour employer votre terme, le combat, ce n'est pas tout le temps, faire ce qui est interdit et surtout le faire sous des formes condamnables. Il y a des familles autour de nous, notamment la famille de Mme Gély, je suis plus à l'aise pour parler d'elle que de moi, qui, bien sûr, subit cet acharnement, et avoir son nom avec des propos diffamants, en tout cas c'est en tant que tel qu'ils ont été recensés, et Julien mérite une procédure. Et s'il y avait un moment de compréhension de la part de l'association et de son président, M. Valle, à un moment donné, ça serait une bonne chose. Nous ne sommes pas des procéduriers, ce ne sont pas des choses que nous demandons régulièrement. La dernière fois que nous avons demandé la protection, c'était pour un nageur à propos d'un problème d'urbanisme il y a quelques années. Hein? Donc, je crois pouvoir vous dire que l'esprit de tolérance et de débat qui est le nôtre et qui est le mien en tant que responsable de la police de la salle, de la police municipale, je ne pense jamais avoir failli déontologiquement à quoi que ce soit. Même si après, sur le thème de la critique, il y a parfois des moments forts, des moments difficiles, des moments dont la violence verbale ne doit pas excéder ce qui est autorisé. On en reste, nous sommes des êtres de culture, on n'est pas des êtres de nature, spontanément, on réagit avec des réflexes qui ne sont pas ceux qu'on peut attendre d'un président d'association. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, de manière très peu près, mais de manière très faible. Voilà. Monsieur Padet.
Oui, je suis en train de protéger les élus qui sont attaqués au diffamé, il n'y a pas de problème. Vous appelez la protection, c'est normal. Que moi, j'ai aucune réserve pour l'accorder. Par contre, je m'associe à M. Bourguet pour dire que peut-être que nos premières actions juridiques pourraient être faites sous forme de médiation. Ça peut. Vous accorder la forme juridique de la protection, c'est une chose. Mais après, politiquement, l'amener comme une médiation dans un premier temps, c'est peut-être.
Oui, je l'ai reçu moi-même à la mairie annexe de Carbon, où j'ai proposé une médiation. Il est resté sourd à cette proposition.
J'entends bien, je parle bien d'une médiation. Je ne parle pas d'une médiation sur le front des dossiers. Je parle d'une médiation par rapport à la diffamation. Pour amener une rétractation et qu'on n'aille pas poursuivre un président d'association et qu'on en reste au débat politique normal. Et qu'on le fasse revenir sur le principe de diffamation. Ça, je pense que si on prend des conseils, ils peuvent nous accompagner là-dessus.
Écoutez, de notre côté, nous avons fait le maximum. On verra si notre conception de la chrétienté peut s'accommoder d'une extension de notre esprit de tolérance et de flagellation. Donc, je le dis avec un petit peu d'humour, mais je vous assure que ce n'est pas l'humour qui est ma première pensée. Quand je lis ce qui est écrit régulièrement, voilà. Donc, c'est entre les mains de l'avocat, ça va être dans les mains de l'avocat, lesquels ont toute expertise avec la personne qui défendra M. Valle, pour voir quels sont les meilleurs termes, d'un point de vue humain, d'abord, et de forme de démocratie. Quelle démocratie voulons-nous ? À un moment donné, vous le savez, si on accepte l'inacceptable, c'est la route ouverte. La voie ouverte vers des formes de laxisme, et je ne pense pas que les Carnonais, même ceux qui ne sont pas Carnonais de cette salle, acceptent ces formes-là. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir fait part de votre position. Donc, on passe au vote. Pour. Contre. Abstention. Je vous remercie. Mandat spécial dans le cadre du menage de la commune avec Beauvais. Donc, j'expose au conseil municipal que M. Christian Claverie, conseiller municipal délégué à la relation internationale, s'est rendu à Beauvais en Italie du 24 au 27 avril dernier, dans le cadre du jumelage unissant ces deux cités. Cette visite avait pour objet de représenter notre commune à l'occasion du 70e anniversaire du 25 avril 1945. Le remboursement des frais engagés se fera sur la base des frais réels. Les crédits sont inscrits au budget de la commune. Je précise que les frais de M. Claverie s'élèvent à des frais d'autoroute et une mise au tête.
Une gère.
Parce que l'hôtel est pris en charge par la commune de Beauvais.
Voilà.
Par la
commune de Beauvais.
300 euros. Voilà. Bonne formation. Donc, je propose d'autoriser le remboursement des frais engagés pour l'exécution de cette mission, dont la gère, qui va en faire pour que cette ville n'est pas la commune. Comme chaque année. Pour. Contre, abstention, je vous remercie. Donc j'expose aux membres du conseil que M. Claverie, conseiller municipal de l'Union internationale, et moi-même, le maire, Nous rappelons la promesse du 22 au 24 mai dans le cadre du village initial et de Sillé. Le remboursement des frais se fera sur la base du PVL. Les crédits sont inscrits au budget de la commune. Je propose aux membres du conseil municipal d'autoriser le remboursement sur les frais annoncés pour l'exécution de cette émission. Je précise au conseil municipal que nous représentons la commune dans le cadre du village avec la commande de l'MJC qui se produit dans la province le vendredi. Ce qui nous concerne, nous, comme résident, les images. Donc, un échange, j'espère, d'appel à l'ordre, avec les jeunes, j'espère également, puisque là, c'est un cadre culturel, également, le cadre sportif également, même si le sport n'est pas l'apanage que des jeunes, la pétanque qui est terrible une certaine année, et les moins jeunes n'étaient pas les plus malheureux. Bien, je vous propose de passer au vote pour, contre, abstention. Je vous remercie. Monsieur Castard, maintenant, va entamer l'exposé des points relatifs à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Merci.
Approbation de l'avenant numéro 1 à la convention avec l'ASS pour le rétablissement des communications voie latérale sud de désenclavement des parcelles DE25 et DE124, un plan est joint. La construction de la neuf au droit de Montpellier a été déclarée d'utilité publique par le décret du 30 avril 2007. L'avant-projet sommaire de la construction a été approuvé par décision ministérielle du 9 mai 2012. La réalisation de cette infrastructure a nécessité le rétablissement de la voirie communale latérale à l'autoroute, côté sud, à l'est du chemin du Mas de Chinest, laquelle a été approuvée par le conseil municipal par délibération numéro 83 du 13 mai 2013. Or, il convient aujourd'hui d'ajouter 4 zones de croisement le long de la voie de désenclavement pour une meilleure desserte. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention relative au rétablissement des communications pour la voie latérale sud de désenclavement.
Excusez-moi, j'ai juste une question. Quel est l'impact de ces 4 zones de croisement au sujet de la propagation du bruit d'autoroute? Est-ce qu'il n'y aurait pas des talus, des haies, des choses comme ça?
Non,
c'était pour savoir s'il y aurait une destruction. À ce moment-là, j'aurais demandé une réponse.
Il n'y a pas d'impact sur la question.
Merci.
Bien, on passe au vote, si vous le voulez bien. Pour cette convention, contre, abstention. Je vous remercie. Alors là, c'est un sujet un peu plus large.
Le lancement d'une procédure de révision allégée, définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation. Vous avez des pièces jointes, notamment les plans. Monsieur le maire rappelle qu'actuellement, le territoire de la commune est couvert par le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 17 juillet 2006. Le plan local d'urbanisme a fait l'objet de plusieurs modifications en date des 22 septembre 2008, 9 novembre 2009, 5 décembre 2012 et 12 novembre 2013. Des adaptations du document sont nécessaires pour prendre en compte l'évolution des projets de la commune. Il apparaît intéressant de travailler plus particulièrement sur un projet de développement du secteur de la Mougère, situé de façon stratégique au croisement de la RD 66 qui relie à la mer et la RD 189. Ce secteur est à proximité immédiate de la ZAC des portes de l'aéroport et du parc d'affaires aérospace. Il est considéré comme l'une des zones principales d'articulation du pays du Nord avec, dans laquelle le SCOT préconise de renforcer les centralités existantes ou à créer et renforcer les articulations du territoire et de son environnement. C'est le PADD du SCOT, page 13 à 15. Le secteur est actuellement concerné par plusieurs classements au plus. Zone 1 à E2 et zone NP. La zone 1 AUE est une zone d'urbanisation future à court terme. Le sous-secteur AUE2 correspond à l'extension de la ZAE de Fréjord-Est et au périmètre du projet de ZAC des portes de l'aéroport situé à proximité du hameau de Vauvière-le-Bas. Les constructions y sont autorisées sous condition de la réalisation d'une opération d'ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements. Il s'agit d'une zone à vocation d'activité et de développement économique. La zone 1 AUE correspond à un secteur en voie de mutation pour lequel les voies publiques et les réseaux d'assainissement existants à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les objectifs de la zone 1 AUE inscrits dans le PLU sont d'organiser le développement économique sur les secteurs stratégiques de la commune, de conforter le développement d'un pôle économique autour de l'aéroport en liaison avec les zones d'activité existantes. La zone NP, quant à elle, correspond dans le plus actuel à des secteurs non construits situés en continuité ou à proximité d'infrastructures routières ou d'équipements existants ou futurs. L'objectif de la zone NP est de valoriser et requalifier les espaces concernés. La zone NP est actuellement inconstructible à l'exception des constructions et installations d'intérêt public, équipements et ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement. Le projet consisterait à revaloriser et à requalifier le secteur de la Mougère qui bénéficie d'un effet vitrine important depuis les infrastructures routières existantes et au sein d'une zone d'activité dont l'aspect architectural et paysager n'est pas satisfaisant. Il permettrait à terme d'accueillir de nouvelles entreprises et d'achever l'extension des zones d'activité de Fréjord Est et Ouest. Il s'agit de concevoir des principes d'aménagement permettant de favoriser le développement économique, tout en mettant en valeur cet espace situé au contact d'infrastructures routières très fréquentées et constituant l'une des principales entrées du territoire communal. La destination d'activités, bureaux, commerces, équipements sportifs, de la zone 1 à E2 sera maintenue et étendue aux emprises de terrains classés en NP, dans lesquels seront notamment prévus des aménagements paysagers et hydrauliques. Cette procédure de révision du plus allégé est possible lorsqu'il n'est pas porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durable conformément à l'article L123-13-2 du Code de l'urbanisme. L'article, vous l'avez à la suite, donc je ne vous le lis pas. Je pense que vous avez pris connaissance parce que vous avez lu les objectifs poursuivis. La procédure de révision allégée envisagée s'inscrit dans le cadre des objectifs généraux décrits à l'article L121-1 du Code de l'urbanisme et des objectifs décrits dans le PADD des flux et du SCOT et des objectifs de la zone 1 à E2, elle permettra plus particulièrement de prévoir l'extension de la zone d'activité existante sur le secteur de la Mougère à proximité immédiate de la ZAE de Fréjord, de la ZAC du Tourcou de l'aéroport et du parc d'affaires aérospace. De privilégier des activités porteuses de développement économique et des constructions et aménagements présentant des qualités architecturales et paysagères. De valoriser ce secteur constituant une enclose dans une zone d'activité existante vieillissante. De privilégier une requalification esthétique du secteur. De prendre en compte des servitudes aériennes existantes sur ce secteur à proximité de l'aéroport. Je passe sur les modalités de la concertation que vous avez dû lire. Et je vais à la conclusion, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la décision du maire d'engager une procédure de révision allégée du plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L123-13-2 du Code de l'urbanisme, d'approuver les objectifs ci-dessus exposés, d'approuver les modalités de la concertation telles que décrites ci-dessus, et d'organiser la concertation prévue à l'article L300-2 du Code de l'urbanisme. Dire qu'à l'issue de la phase préalable de concertation, M. le maire en présentera le bilan devant le conseil municipal qui en délibérera. Dire qu'à compter de la publication de la présente délibération, le maire pourra décider de surseoir à statuer dans des conditions et délais prévus à l'article L111-8 sur les demandes d'autorisation concernant la construction, installation ou opération qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Et enfin, mettre en œuvre la présente délibération et le mandat à l'effet de prendre toute décision et de signer tout contrat nécessaire à sa mise en œuvre.
Merci, Bernard. Madame Comarno.
Excusez-moi, je suis très inquiète parce que cette zone se trouve juste en bout de piste de l'aéroport. Ça demande des procédures importantes. Si la première zone d'activité de Fréjord est installée de l'autre côté de la route, c'est bien parce qu'il y a un risque. Donc, quels sont vos contacts avec la DGAC là-dessus? Et je peux vous apporter mon expérience. En fin d'après-midi, en revenant de Montpellier, ma voiture s'est transformée en avion sur l'échangeur, parce que un avion m'a rasé et je veux dire, j'étais absorbée par l'air de l'avion. On a été plusieurs fois, mais je vous assure, donc il y a des difficultés, il y a 4-5 ans, il y a des difficultés qu'il y a parfois à décoller pour les avions, et là on est juste en prolongement, et le carrefour est en dénivelé, et on est au-dessus. Et je vous assure qu'il n'y a pas trop qui eu peur, et bon, je suis ici, mais les gens de l'avion aussi sont ici, parce que si les voitures avaient... c'était entrechoqué, l'avion aussi se retrouvait sur le sol. Donc, construire en bout de piste comme ça me semble tout à fait illogique, et je pense que si on l'a mis en zone N, c'est justement parce qu'il y a des prescriptions aériennes importantes.
Alors, comme vous l'avez vu en page 7, la dernière ligne de la page 7, il est écrit de prendre en compte les services aériens existants sur ce secteur à proximité de l'aéroport. Les contacts ont été pris, bien sûr, avec les autorités aéroportuaires et la DGAC, qui semblent ne pas s'opposer à ce projet. Bon, bien sûr, les règles seront définies une fois qu'on aura un projet avec la hauteur des bâtiments, etc. Ça sera beaucoup plus précis. Mais pour l'instant, la DGAC est favorable à ce projet. Sous certaines réserves, bien sûr. Il faut l'observer.
Bien, s'il vous plaît.
Oui, je voudrais savoir pourquoi, puisque nous sommes en cours de révision du PLU, pourquoi avoir lancé une nouvelle procédure juste pour ce sujet-là.
Parce qu'on ne s'annoterait pas dans le cadre d'une modification. On est en période de modification du PLU. Il est d'ailleurs terminé, puisque l'enquête publique s'est terminée. C'était une modification, alors que là, c'est une révision. Ça n'est pas la même chose, ce n'est pas la même procédure. Donc on est obligé de faire une procédure de révision à l'échelle.
Merci pour ces éléments.
Il y a aussi la problématique du NEL4 et des problèmes d'inondation. Donc c'est encore de l'imperméabilisation sur cette zone-là. Et je rappelle que le gros carnon est l'embouchure du NEL4.
Là-dessus, sachez que la réalisation de l'aménagement de cette zone a été accompagnée de prescriptions émanant de l'État. Et donc, des mesures compensatoires seront bien sûr mises en place sur le site avec une architecture, en tout cas une disposition de tout ce qui est facilitateur en termes hydrauliques, non seulement là, mais également au niveau de premier relevant. Puisque des mesures compensatoires à hauteur de, je ne voulais pas me tromper, mais je pense que c'est entre 4 et 500 000 euros, dans la commune de Mogliocarnon payera une partie et la communauté d'agglomération une autre partie pour justement faciliter l'état aujourd'hui d'écoulement des eaux qui est insatisfaisant. Donc on subordonne la réalisation de ce projet à des mesures donc préalables. Voilà. Donc vous voyez vraiment, merci à vous.
Pour compléter la déclaration de M. le maire, toujours en page 7, le troisième paragraphe, la destination d'activités d'euro-commerce et équipements sportifs de la zone 1 à E2 sera maintenue et étendue aux emprises de terrains classés en UP, dans lesquelles seront notamment prévus des aménagements paysagers et hydrauliques.
Voilà, c'est le troisième paragraphe.
Et ensuite, vous avez une idée pourquoi c'est faire, c'est juste pour agrandir la zone.
Alors, quand le plan de prévention des risques des inondations a été réalisé en 2001, il y a eu véritablement un combat entre l'État et la commune pour ne pas renoncer à une partie de l'aménagement de la zone économique en zone AUE. Et effectivement, aux confins du Grand Carrefour, ces deux zones naturelles protégées avaient été donc repérées comme étant une zone dont l'activité commerciale ne justifiait pas le classement. Vous le savez, le PLU est un document qui est actualisable, qui vit. Et aujourd'hui, après avoir aménagé Trésor de l'Ouest avec le Mans des Cavaliers,
La communauté d'agglomération à qui la commune a confié la compétence économique souhaite, avec bien sûr l'appui de la commune de Bouguiau, puisque je ne pense pas que l'emploi nous laisse insensibles, et le développement d'une activité complémentaire de ce que font nos voisins montpelliérains est une très bonne chose. Donc aujourd'hui, afin d'optimiser tout en respectant le caractère du terrain, le désir d'optimiser cette zone de manière raisonnable, puisqu'on parle de 19 hectares environ, donc permettrait de réaliser des équipements complémentaires à ceux qui seraient conditionnés en zone économique. Pour le moment, nous attendons le classement par l'autorisation de la préfecture suite à l'enquête, et je rappelle que déjà il y a quelques années, une autorisation avait été donnée à un investisseur qui avait été ensuite cassé par rapport à l'amendement du pont, par rapport à une procédure engagée par une tierce personne, par rapport au problème de bassin de rétention qui n'était pas bien positionné. Ne croyez pas que nous désirions transformer toute cette zone qui, au final, verra moins de la moitié de l'espace aménagé d'activité économique. La proximité de l'aéroport appelle aussi un examen minutieux de toutes les formes d'optimisation, j'allais dire, du terrain, et des propositions d'échange ont été faites auprès des exploitants qui sont sur place pour leur trouver, grâce à la SAFER et grâce au DDC des grands chantiers, des propositions de poursuite d'activité, l'une de ces personnes ayant acheté un masque à côté de la côté de Bouguer. Voilà. Donc, bien sûr, nous sommes tous ces considérants.
Moi, je pense qu'on aurait dû accorder quand même la priorité déjà à la rénovation de cette zone de Fribourg-Est. Je vous signale quand même qu'il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de mètres carrés qui sont vides, qui sont à vendre, qui sont à louer, qui sont en état presque d'abandon dans cette zone. Donc l'urgence, c'était plutôt de s'occuper de cette zone avant de l'agrandir.
Monsieur Bourguet, si j'étais méchant, je vous dirais qu'il faut vous adresser au président de l'agglomération qui a la compétence, mais je ne le ferai pas.
Je le lui dirai.
Ce que vous dites est inexact. Nous avons
bon.
La communauté d'agglomération.
Allez prendre en photo les panneaux à vendre, vous verrez, il y en a sur chaque bâtiment.
Monsieur Bourguet, laissez parler, c'est un moment aussi. La première action qui a été faite il y a quelques années, ça a été la rénovation de l'avenue Hélène Boucher, qui a coûté plus de 600 000 euros, faite par la communauté d'agglomération. Plus tard, les rues Saint-Exupéry et toute la zone a été aménagée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une volonté de reconversion, d'extension de certaines entreprises. Le meilleur exemple est l'entreprise Pure Impression, qui est passée de l'ouest à l'est. Généralement, c'est l'inverse. Bon, l'histoire récente nous amène à considérer l'inverse. Mais par rapport au fait que la reconfiguration d'espaces plus larges est nécessaire, et nous travaillons justement sur cette réaffectation de certaines entreprises, de certains locaux, qui sont généralement devenus trop exigus et qui appellent justement des transformations d'activité, des extensions d'activité, que l'on peut très bien géographiquement accompagner de l'ouest à l'est. Voilà. Bon, cela dit, il y a peut-être des locaux vacants. Je rappelle que cette zone est le poumon de l'agglomération du Pays de l'Orne avec celle de l'éco-parc, puisqu'il y a plus de 60 hectares là-dessus. Et c'est un bassin d'emploi que nous encourageons. Et je puis vous dire qu'il y a beaucoup de prétendants pour venir s'installer sur cette zone.
Oui, c'est bien pour ça que je dis que la vraie priorité, c'est de savoir pourquoi cette zone. On va dire qu'elle est désuète, qu'elle est démodée, mais voilà, je crois que la priorité, c'est de s'atteler à ce problème.
Écoutez, là, le retour des tâches est un bon endroit. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas négliger la possibilité d'élargir ce bassin d'emploi en acceptant, en accompagnant des entreprises. Nous avons un territoire aux portes de l'aéroport qu'il convient de valoriser. Voilà, donc j'ai entendu vos arguments, vous avez développé l'un et l'autre. Y a-t-il d'autres interventions sur un autre sujet?
Juste un point. 19 hectares, c'est juste en dessous des 20 hectares pour la loi sur l'eau. Donc à chaque fois, on tronçonne et donc après on se retrouve avec des inondations parce que lorsqu'on ne crée pas un véritable réseau hydraulique et on ne prend pas en compte notre topographie et notre climat. Donc c'est vraiment tirer les choses par les cheveux et mettre les gens en difficulté.
Merci pour vos expressions. Donc je n'en vois pas forcément le fond, ni le fond. Donc on va passer au vote s'il n'y a pas d'autres interventions. Qui est pour cette, un avis positif pour lancer la procédure de révision? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite,
avis relatif à la demande d'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud au lieu dit des garrigues par la société Eurovia. Monsieur le maire expose que l'arrêté préfectoral numéro 2015-1-553 en date du 21 avril 2015 définit les modalités de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud située au lieu dit la garrigue sur la commune de Mobio par la société Eurovia. Le dossier est mis à l'enquête publique du 11 mai au 11 juin 2015. La centrale d'enrobage ne sera utilisée que temporairement durant un chantier de doublement de l'autoroute A9 pour une durée de l'ordre de 26 mois, soit du second semestre 2015 à la fin de l'année 2017. Il est précisé que toutes les dispositions techniques et organisationnelles seront prises pour limiter la consommation d'eau et d'énergie, éviter la dispersion de pollution dans l'air, l'eau et les sols, réduire le bruit, les vibrations, les émissions lumineuses, gérer les effluents et déchets en limitant les quantités générées et en utilisant des filières de recyclage et ou d'élimination agréée. Respecter l'environnement et le voisinage, ne pas créer de danger pour la sécurité et la santé. Monsieur le maire, je propose de donner un avis favorable à la demande de la société Eurovia d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud au lieu de la garrigue sur la commune de Mobio, sous réserve de respecter les précautions précitées, de demander à la société Eurovia du pays une extrême vigilance pendant la durée des travaux pour assurer le respect du site et de ses actions, de demander à être informé dès l'arrêt définitif de la centrale, de demander à la société Eurovia une restitution du site conforme à l'utilisation d'exploitation agricole des lieux afin que les terrains retrouvent leur destination initiale dans l'environnement.
Je précise bien sûr que les riverains s'inquiètent et je relais cette inquiétude d'une usine comme ça, d'une centrale d'enrobage à chaud. Et je puis vous dire que dès que la société Eurovia nous a interpellés, c'est M. Cassard qui suit ce dossier, bien, nous avons bien sûr demandé une réunion avec les services préfectoraux qui sont les garants en matière d'environnement, justement d'un parfait respect des conditions draconiennes qui sont décrites dans le cahier des charges pour que, disons, pendant le temps d'exploitation qui est relativement long et au niveau également du résultat de la remise en état, nous exigerons et nous surveillerons les travaux pour que le site soit rendu en son état initial. Nous avons même des conseillers municipaux qui sont résidents aux abords de ces lieux sur un terrain qui n'appartient pas à la commune, qui avait été acheté il y a quelques années pour faire un terrain d'air d'accueil pour les gens de voyage, comme quoi l'histoire est un peu bizarre. Et donc, bien entendu, nous suivrons avec la plus grande vigilance, et je sais d'avance que certains d'entre vous vont s'y mouvoir de cet état de fait, en sachant que, bien sûr, les engagements qui seront pris seront régulièrement, disons, contrôlés et par la préfecture et par la commission. Monsieur le Président.
Oui, donc là j'attire l'attention quand même de tous les élus ici présents. Il s'agit d'une affaire très importante qui touche au cœur de notre vie, de la vie économique. La culture de Mobio, c'est quand même le vignoble. Ce vignoble AOC, et cette centrale va être implantée au cœur d'un vignoble AOC qui déjà est très touché. Vous le savez, allez vous promener aux garrigues. Déjà les travaux qui sont en cours sont une catastrophe pour la Méjanelle. Alors les viticulteurs du coin se sont réunis au coteau du Languedoc vendredi. Ils sont très en colère, surtout ils sont très affectés, ils ont très peur. Alors moi je vous demande une chose, je demande que cette demande, cette autorisation soit retirée de l'ordre du jour, que les conseillers municipaux, que M. le maire, aller rencontrer en toute transparence les viticulteurs du coin. Ils sont 15, ils étaient 15 vendredi réunis au mas de Saint-Porta à Latte. Voilà, je pense que c'est la moindre des choses. On ne peut pas implanter cette centrale comme ça. Ils ont mis en place des caves privées, des circuits touristiques de visite du vignoble. Ils sont classés en AOC. Ils ont déjà l'autoroute et le TGV. Voilà, je pense que là, on touche vraiment au cœur, on touche au poumon de notre territoire. Je crois qu'il ne faut pas laisser s'implanter cette centrale-là sans l'avis des viticulteurs concernés.
Monsieur Bourguet, je m'attendais à ce que disons, ces inquiétudes soient portées par l'un ou par certains d'entre vous, et j'y suis bien sûr très sensible. Je vous rappelle que, cela dit, je ne voudrais pas que votre remarque laisse à penser que l'irresponsabilité nous est conduite comme ça à présenter le document, ça nous gardait de ces effets nocifs. Je vous rappelle que nous avons toujours été, j'ai toujours été opposé, depuis que je suis maire, à toute exploitation, à toute extraction de ce qu'on appelle une carrière d'emprunt, c'est-à-dire qu'on nous a sollicité, on nous a tanné, pour employer le terme connu de tous, pour que justement on cède au fait que du côté de l'amour, on accepte de donner des matériaux pour la construction de la neuf, et on a tenu bon. Justement, au nom de la défense du vignoble, aujourd'hui, on n'arrache pas des vignes pour installer cette centrale d'arborage. J'ai bien compris, tout le monde a bien compris, que le contexte est dans un contexte d'exploitation viticole au niveau des coteaux de la Méditerranée. Oui. Cela dit, c'est l'État qui conduit cette procédure. La commune ne donne pas, c'est pas un avis de vie ou de mort du projet, la commune donne un avis. Et, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour les viticulteurs, j'essaie de les aider le mieux possible dans le domaine raisonnable, avec ma consommation quotidienne. Donc, je veux pas qu'on pense que nous n'avons pas mesuré le poids de cette, de poids, les risques de cette installation dans un milieu, bien sûr, qui n'est pas dédié à de l'industrie. Bien entendu, M. Bourguet. Oui.
Oui, mais moi, attention, je ne veux pas en faire un ajout. C'est pour ça que je me suis adressé à vous, que j'ai demandé le retrait de ce point de l'ordre du jour. Je ne veux pas qu'on en fasse un enjeu politique aux politiciens. Vous écrivez, Monsieur le maire propose de donner un avis favorable à la demande de la société Eurovia d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud au lieu d'Ilagarine. Je demande juste qu'on revoie ça plus tard et qu'on prenne le temps. Bon, l'enquête publique est ouverte. Les résultats de l'enquête publique nous en diront un peu plus et qu'on remette ce point à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal après avoir rencontré toutes les personnes concernées.
Alors, moi je propose qu'on prenne l'avis quand même de l'autorité environnementale.
Alors, effectivement, l'autorité environnementale qui a été consultée sous l'égide de l'État, puisque vous le savez, comme l'a dit monsieur le maire, c'est un projet qui est diligenté par l'État, c'est pas nous qui organisons cette opération. L'autorité environnementale, je tiens le document à votre disposition si vous le voulez, hein, il est d'ailleurs dans le dossier de l'enquête publique. Je vous donne simplement la conclusion de l'autorité environnementale, donc qui est appliquée par la DREAL, et c'est la DREAL qui vérifiera si cela se passe bien ou pas. Alors la conclusion, c'est par rapport aux enjeux identifiés, le dossier présente une bonne analyse des impacts du projet sur les différentes composantes environnementales. Les impacts sont bien identifiés et traités. Il prend bien en compte les incidences directes, indirectes, permanentes ou temporaires du projet sur l'environnement. C'est la conclusion de l'autorité environnementale.
Ça, ce sont des mots. Ce sont des mots de bonnes intentions. Il va quand même y avoir un four à chaud, il va quand même y avoir une cheminée de 13 ou 18 mètres de hauteur, il va quand même y avoir des camions à la queue leu-leu. Voilà, donc tout ça, ça a un impact au milieu d'un vignoble AOC, on ne peut pas dire le contraire. Donc, voilà, moi tout ce que je vous dis, c'est qu'il me semble qu'on va trop vite dans cette affaire.
Monsieur Bourguet, moi je m'engage à demander au commissaire enquêteur le rapport que je présenterai au conseil municipal pour dire quelles sont ses conclusions, que les choses se passent en toute transparence. En tant que, voilà, je pense que le projet a été étudié par nos services
préoccupation que je partage. Mais nous devons néanmoins avancer dans ce projet. Je ne retiens pas votre proposition. On va donc passer au vote pour émettre un avis favorable. Je demande à ceux qui sont pour.
Il y a une enquête publique. On ne peut pas attendre qu'elle soit terminée et reporter ce dossier au prochain conseil municipal. Ça se termine le 11 juin. Est-ce qu'on peut reporter ce dossier à l'issue?
Non, parce que c'est un avis sur l'autorisation d'exploiter. D'accord? Donc on nous demande notre avis avant la fin de l'enquête publique, et ce qui permet aux personnes d'aller consigner dans l'enquête publique les observations, et après le commissaire enquêteur donnera son avis. Mais nous, on est obligé de donner le nôtre aussi, dans le cadre de l'enquête publique. D'accord,
mais pas compris. Monsieur Tondet, je voudrais savoir si vous avez été amené à évoquer, ou alors monsieur Bourguet, un site de meilleure qualité que celui que vous avez proposé. Est-ce qu'il y a d'autres sites qui sont envisagés? Soit par les agriculteurs, soit par nous, soit par monsieur Bourguet.
Pas ce jour-là. C'est un délaissé autour de juste après le pont, que tout le monde connaît, qui l'a fait. Qui est la propriété des ASF?
C'est surtout ça, c'est la propriété des ASF. Ce terrain appartient à l'autre. Voilà. C'est pour ça qu'il n'implante là. Il n'implante pas sur le terrain communal.
Comment ça se fait qu'il y a des travaux qui ont commencé sur ce terrain?
C'est les travaux d'aménagement.
Alors, on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps, donc je peux vous répondre. Effectivement, il y a des affouillements qui sont commencés, mais les affouillements sont prévus dans la DUP autorisant l'autoroute. Voilà. Donc tout est.
Donc, je ne veux pas faire votre question, laisse entendre qu'il y a un accord qui a été donné avant que le conseil ait statué. C'est pas le genre d'un désordre, si vous voulez. On est d'accord. Ce n'est, en plus, on donne un avis. Et je ne dis pas qu'il faut. Je pense qu'on a apporté la preuve et qu'on apporte constamment de la volonté de préserver la profession et l'environnement. Néanmoins, cette centrale d'arrosage, vous avez quand même lu les restrictions. Voilà, donc je vous relis. Moi, je vous propose de donner un avis favorable à la demande de la société Eurovia GPI d'exploiter la centrale d'arrosage à chaud, comme je dis, la Garine, sur la commune de Bungio, sans réserve de respecter les précautions précitées, de demander à la société Eurovia GPI une extrême vigilance pendant la durée des travaux pour assurer le respect du site de ses habitants, de demander d'être informé des lames définitives de la centrale, de demander à la société Eurovia une restitution du site conforme à l'utilisation d'exploitation agricole des lieux. Je le répète, une restitution du site conforme à l'utilisation d'exploitation agricole des lieux, afin que les terrains retrouvent leur destination initiale de l'environnement. Bon, on voit quand même dans une préoccupation.
On vous joindra l'avis de l'autorité environnementale avec le compte-rendu de la séance du conseil municipal.
Voilà, nous passons au vote. Alors, pour, levez la main, s'il vous plaît. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 9 est un point dédié à l'exercice de la compétence périscolaire par l'agglomération du Pays de l'Or. Et on va voir qu'en avant-hier, avant que Mme Campagne n'expose le sujet, que Cardon est un précurseur sur le style de fonctionnement que l'on nous propose par rapport à Mouvio, où nous allons, comme Mme Campagne va vous l'exposer, nous tourner vers un fonctionnement qui semble apporter satisfaction à Cardon.
Monsieur le maire, est-ce que vous pensez que l'agglomération du Pays de l'Or exerçait sa compétence en matière de politique en faveur de l'enfance et de la jeunesse contractualisée avec la CAF, création et gestion d'accueils de loisirs sans hébergement pour les 3-11 ans et des accueils de loisirs associés à l'école, aujourd'hui dénommés accueils de loisirs périscolaires, existants ou à créer, création et gestion d'espaces jeunes pour les 12-18 ans, et ce à compter du 1er septembre 2015 sur l'ensemble des établissements scolaires de la commune. En effet, la compétence périscolaire incombe à l'agglomération du Pays de l'Or, lui permettant de prétendre à des financements, notamment de la CAF, que la commune seule ne pourrait obtenir. Par ailleurs, le territoire communal est aujourd'hui coupé en deux. Les l'établissement scolaire de Clermont étant géré sous forme d'accueil de loisirs périscolaires par l'agglomération du Pays de l'Or, tandis que la commune a en charge le temps périscolaire dans les écoles maternelles et élémentaires de Montlieu. La mise en place d'accueil de loisirs périscolaires en matinée, pause méridienne et soirée, de 16h30 à 18h, sera réalisée dans le cadre du transfert de compétences et constituera une réelle plus-value éducative. Par ailleurs, le temps d'activité périscolaire dégagé par la réforme sera programmé en période d'une heure. Ce temps programmé de 15h30 à 16h30 sera gratuit. La commune sollicite les services de l'agglomération du Pays de l'Or pour la gestion de ce temps pour son compte. Les modalités financières seront examinées lors d'une commission locale d'évaluation des charges transférées. Monsieur le maire demande au membre présent d'approuver l'exercice de la compétence périscolaire par l'agglomération du Pays de l'Or.
En fait, c'est une disposition que nous avions l'intention de prendre l'année dernière, mais que nous avons retardée par rapport aux intermoments, en tout cas par rapport à l'indécision relative à l'aide de la carte, la caisse d'assurance de branche famille, par rapport au financement de ces activités. Et nous avions convenu que ce serait une année de transition. Caisse d'allocation familiale, excusez-moi. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais voter. Qui est pour ? Contre ? Abstention ? Voilà, la campagne, on pourra exposer dorénavant davantage de points. Madame Laurent,
pardon, monsieur le président, l'explication de vote sur ce vote unanime. Ça n'a pas toujours été le cas sur les questions de périscolaire. Je vois qu'on a convergé les uns et les autres, de par notre travail en commission. De par le travail de la précédente adjointe aussi, puisque vous avez fait un travail d'équipe, le travail en commission a été plein de convictions, parfois d'affrontements, mais plein de bonne volonté. Donc je m'en félicite, je pense que nous tombons là sur un fonctionnement pour le périscolaire, de bonne qualité éducative, et avec une résonance sociale qui nous va très très bien.
Merci. Soyez certains que tous les élus, tous les services s'y sont normalement attelés. Voilà, je salue, quand je dis tous les élus de la commission, bien sûr, je salue le résultat, l'engagement de chacun. Daniel ?
Alors, adhésion de la commune à la Fondation du patrimoine. L'adhésion de la population au projet de réhabilitation du château des Comtes de Belgay est en gage de son succès. Il est proposé de lancer une souscription auprès des Clermontiens et Clermontais attachés à leur patrimoine, c'est ce qu'on appelle le mécénat populaire. Cette souscription sera soutenue par la Fondation du patrimoine, une commune d'utilité publique depuis 1997, pour centraliser la collecte des fonds et donner droit pour les contributeurs à une réduction d'impôt. Alors, cette réduction, elle représente 66% du montant du don pour les particuliers, dans la limite de 20% du revenu imposable. Donc, si quelqu'un verse 100 euros, et en fait, ils auront une réduction de 66 euros sur leurs impôts, donc en fait, ça coûte 33 euros. 75% du montant du don pour les particuliers soumis à l'ISF dans la limite des 50 000 euros. Donc là, pareil, vous donnerez 10 000 euros soumis à l'ISF, ça veut dire qu'il y aura 7 500 euros de réduction d'impôt. Et 60% du montant du don pour les entreprises dans la limite de, non pas 5%, mais 5 pour 1000, il y a une fois que je le dis, 5 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe. Auquel je peux rajouter qu'il y a souvent une contrepartie qui représente 20% du don sous forme de communication. En général, on leur donne la possibilité d'avoir une insertion dans un journal local, par exemple, un logo qui peut être mentionné en tant que donateur. Si le montant total des fonds collectés atteint 5% du montant hors taxe des travaux, une aide complémentaire de mécène va être engagée par la Fondation du patrimoine dans la limite de 12% du montant hors taxe des travaux. Cette démarche est conditionnée par l'adhésion de la commune à la Fondation du patrimoine pour un montant de 500 euros. La Fondation du patrimoine œuvre pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti de proximité, avec plus de 2500 projets soutenus chaque année et 12 millions d'euros collectés. Monsieur le maire demande au membre présent de l'adhésion de la commune à la Fondation du patrimoine et de l'autoriser à signer les documents relatifs à cette affaire.
Merci. Des questions ? Bonjour à tout le monde, donc en espérant que cette démarche aura le succès que vous et prouvera l'attachement des habitants de notre commune. et notre patrimoine qui le mérite indéniablement. Donc on passe au vote pour, contre, abstention. Je vous remercie.
Alors, un compte du 29 septembre 2014, demande d'aide financière auprès de l'État, du Conseil régional et du Conseil général. Monsieur le maire expose au membre présent qu'il a été décidé des travaux de restauration des berges de la Bannerie et des voiries suite aux intempéries du 29 septembre 2014 afin d'assurer rapidement la sécurité des aménagements de la ville de Montbiot. Monsieur le maire vous propose de solliciter auprès de l'État, du Conseil régional et du Conseil général une subvention la plus élevée possible compte tenu d'un montant de travaux estimé à 102 550,37 € hors taxes, soit 123 060,44 € hors TTC.
Bien.
Je voulais juste faire une petite remarque, c'est que quand on a construit cette digue dans l'urgence, ensuite on a nommé un bureau d'études pour qui a donné ses conclusions en 2006 et qui a dit qu'il fallait accompagner les travaux de cette digue par d'autres travaux, toute une série de travaux, qui parce que sinon cette digue, de toute façon, elle est fragilisée, elle peut mettre en danger les populations qui habitent derrière et elle inonde un peu plus ceux qui habitent de l'autre côté. Et je constate qu'à ce jour, il n'y a toujours rien d'entrepris.
C'est votre point de vue, M. Bourguet. Je puis vous dire que les services communaux, M. Morel est derrière moi, il n'est pas à la tête de l'appel, mais les services ont travaillé justement dès le CD186 au terrain du stade qui borde le stade et au lagage. Et je vous fais observer que les berges ont bien tenu et que personne n'a été inondé malgré une crue particulièrement importante. Donc, je ne peux pas vous laisser dire qu'aucun entretien n'est apporté. Au contraire,
je n'ai pas dit ça, hein. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'entretien. J'ai dit que cette digue devait être assortie d'autres travaux beaucoup plus importants, parce qu'en elle-même, toute seule, elle ne peut pas suffire.
On va en faire bientôt sur le salaison, monsieur Bourguet. Donc, petit à petit, je pense qu'on a le bon sens. Ouais. Voilà.
Pourquoi dans ce dossier, le 29 septembre aussi, rue des quatre fondateurs à Carnon, il y avait 1,12 m d'eau, les services municipaux ont proposé de faire des travaux, pourquoi il n'y a pas la budgétisation aussi de ces travaux?
Je
n'ai
Je peux vous répondre, ces travaux sont prévus dans le cadre du programme Voirie de 2015. Les travaux, disons, de ce que nous avons vu, disons, à la réunion et les propositions que vous avez faites, c'est-à-dire la déverse, disons, de la scène de rétention qui va directement dans le puits et une conduite qui va être réalisée rue des quatre fondateurs pour relier, pour court-circuiter, disons, une maison du puits. Ça, c'est prévu, ça se fera, etc.
Merci.
Bien.
Donc,
c'est une préoccupation qui ne nous a pas échappé. Je m'étais rendu moi-même avec les services. Au lendemain de la crue, justement dans la rue des quatre fondateurs, certains riverains m'ont fait part de leur mécontentement et aussi de leurs attentes vis-à-vis de mesures correctives. Voilà. Donc, passe au vote, s'il vous plaît. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 2. Stationnement payant du parking du Petit Travers à Carnon. J'expose que l'aménagement du lido du Petit au Grand Travers et l'opération emblématique d'aménagement qui recueille l'adhésion de tous après l'année de mise en service. Pour autant, les charges liées à l'entretien de ce site s'élèvent à 400 000 euros par an, réparties équitablement entre l'agglomération du Petit Travers et la commune de Bouillot-Carnon. Dans un souci d'équité entre les contribuables de la commune et le public de la plage, Monsieur le maire propose de rendre payant le stationnement sur le parking du Petit Travers du 1er juillet au 30 août. Les recettes récoltées seront intégralement consacrées à l'entretien et à la protection du littoral. Le tarif pour cette saison 2015 sera fixé forfaitairement à 3 euros pour les véhicules légers. Je demande à l'Assemblée d'approuver le tarif forfaitaire de 3 euros pour le stationnement du parking du Petit Travers à Carnon.
Oui, d'abord je voudrais poser une autre question. Quand vous dites 3 euros, c'est quoi, c'est 3 euros les 24 heures?
3 euros, c'est l'entrée de
sous. D'accord. pour une durée illimitée.
La durée, bien sûr, ce sera la durée de la journée dans le meilleur des cas.
D'accord. Ensuite, là, j'ai un article du Midi Libre de 2006. Le stationnement au petit et grand travers ne sera pas payant. C'est un nom ferme et définitif. Monsieur André Vézinet. Il y avait à l'époque 10 000 signataires d'une pétition. Donc je pense que là aujourd'hui on assiste à une usurpation parce qu'on a démobilisé les gens qui s'étaient mobilisés. Si ce parking est gratuit jusqu'à aujourd'hui, c'est dû à la mobilisation citoyenne, à une grosse mobilisation populaire. Donc là on assiste vraiment à un déni. Voilà. Ensuite, quand vous dites l'équité entre les contribuables, vous mettez en opposition les habitants de la commune et les usagers de la plage. Or, ce sont les mêmes, bien souvent. Je connais beaucoup de Mégoriens comme moi qui vont à la plage au petit travers. Donc je vois pas pourquoi vous les mettez en opposition. Donc nous, on a subi une augmentation d'impôts qu'on va sentir à l'automne prochain. Et en plus, on doit repayer le parking. Je ne vois pas en quoi l'équité, en quoi vous faites une équité. Et puis, je voudrais soulever le problème du stationnement, avenue Gratiot-Cibran. Les gens iront se garer avenue Gratiot-Cibran dans les enclos s'ils ne veulent pas payer.
Monsieur Pradé, je vais vous répondre à cette
question. Oui, monsieur le maire, pour aborder le problème dans le bon sens, la montée des zones de la Méditerranée, hein. on pourrait penser que le réchauffement climatique n'a pas de coût. Là, on voit que c'est un coût, puisqu'on est obligé d'avoir un recul stratégique, on est obligé de réaménager, donc c'est un coût. Et ce coût, la question est de savoir qui le porte. Donc évidemment, la solidarité communale et intercommunale, porte ce coût. La question est de savoir si les usagers automobiles doivent venir à contribution de ce coût. Moi, je pense que pour des raisons éducatives, il faut que chacun sache bien que l'usage de la bagnole, ça ne pourra pas continuer comme ça. Donc, je suis favorable à ce qu'il y ait un coût, on dit que. Par contre, moi, je pense que d'autres communes sont plus souples que nous par rapport à leurs propres administrés. Moi, je serais favorable à ce que les Mégoriens et les Carbonais aient une gratuité ou un tarif préférentiel. Il faut qu'on envisage ça. Si vous prenez, moi, je prends par exemple les méthodes de l'agglomération de Montpellier, si on va à sa plage, la plage des Villeneuve, depuis des années, les touristes paient. Et par contre, les villes de bois ne paient pas. C'est la pratique aussi à Palavas pour le phare de la Méditerranée. Si vous montez voir un paysage ou un phare, vous payez 1 €. Si vous êtes palavasien, c'est gratuit. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, moi par rapport à votre proposition, est-ce qu'on ne pourrait pas là-dessus avoir un groupe de travail qui puisse envisager une modalité pour que ce soit, pour qu'on révise la tarification pour nos propres administrés qui payent eux-mêmes déjà en partie. Donc c'est le sens de ma question.
Je vous réponds, M. Cordet. Pour finir le tour aux raisons, continuez tout à l'heure, M. Cordet.
Oui, donc effectivement, ça a un coût. Ce genre de coût, compte tenu de l'environnement qui change et qui se dégrade, hein, bien, ça va augmenter. Donc la solution, donc là on a une destination de 400 000 euros, c'est soit on fait financer par les contribuables, soit on fait financer au moins en partie par les usagers. Je pense que, comme on a déjà utilisé la cartouche impôts locaux, je pense qu'effectivement, comme beaucoup d'autres villes le font, là il faut envisager de faire contribuer les usagers, mais justement, effectivement, je pense en trouvant des barèmes, en sorte que les habitants locaux de Montillot et de Carmont aient un coût moindre que des usagers qui viendraient de plus loin. Je pense que là, on peut trouver, sous forme de macarons, de résidents, etc., on peut trouver effectivement matière à travailler.
Bien, merci. Bien. Alors, je vais répondre. Alors, une parole par contre, Madame Combarou, sinon, si vous y mettez, on va passer à son professeur, madame.
Oui, donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il y a eu des propositions en ce sens. Donc, je souhaiterais te rattacher au groupe de travail.
D'accord.
Merci.
Alors, je vais vous répondre dans l'ordre où les interventions ont été faites. Donc, pour le groupe de M. Bouquet, M. Bouquet, vous avez évoqué une promesse faite en 2006 par le président du Conseil général. Qui aurait dit en 2006, pour évoquer ce qu'a dit M. Bouquet tout à l'heure, que le RD 59 serait supprimé et qu'on assisterait, tenant compte de l'érosion marine et du risque de submersion marine, à ce recul stratégique par la disparition de la RD 56, et on a aménagé donc un parking qui est venu effectivement pendant 8 ans. Donc pendant 8 ans, le président du département, à qui la commune avait quand même au départ donné 200 000 euros à lui, au département, pour l'acquisition du marché à la mer, donc on avait déjà contribué en partie, on a accepté pendant 8 ans de. D'accepter au cours de la troisième année que nous avons la gestion gratuite pour tout le monde de ce parking. Un parking, je le rappelle, il n'a pas été construit moins de 5000 m3 de dos l'année dernière pour les sanitaires. Cette année, je puis vous dire que des mesures seront prises pour laisser quand même la possibilité de se doucher, mais pas de faire la lessive. Il y a l'entretien des espaces verts, il y a l'entretien des lices, il y a la propreté, il y a la lumière. Donc, bien entendu, la commune de Mouguio-Cardon a été mauvaise pendant de nombreuses années. Je rappelle que suite à des travaux d'aménagement, il y a des mesures compensatoires qui ont privé le stationnement gratuit des usagers, des contribuables, de 1000 places. Que ces 1000 places ont été rendues aux usagers de la plage et aux contribuables, à qui vous demandez. Que ce fonctionnement, aujourd'hui, dans lequel l'argent public s'est monté à 5 millions de dollars, subventionné un peu par l'Europe, un peu par la région, un peu par le département, et un peu par la ville de Mont-de-Carnon, un peu par la communauté d'agglomération, appelle aujourd'hui un fonctionnement qui est de l'ordre, comme il a été dit, de 400 000 euros, dont une moitié est portée par la communauté d'agglomération dans laquelle, je vous rappelle, nous sommes largement présents, et la moitié par les services, nos propres impôts locaux, qui sont en hauteur de plus de 200 000 euros. Bien. Nous avons donc également avancé dans notre approche en disant qu'on ne peut pas continuer systématiquement à solliciter le contribuable et ne pas tenir compte que l'usager, voilà, vous avez parlé d'équité. Oui, l'équité, c'est qu'il peut y avoir un cofinancement entre celui qui bénéficie, comme pour le transport, d'un service prépayé par le contribuable et l'usager payant lui sa quote-part à partir du moment où il sollicite le service. Vous savez que le syndicaliste du Eurotransport a un budget de 70 millions d'euros. Et vous savez que les recettes des usagers, elles se montent à 800 000 euros. Je grossis le trait. C'est-à-dire, c'est epsilon. Et nous n'imaginons pas que ce parking, là pour le jeu d'or, ce parking, voilà, valable, une fois qu'il va être. Bon, c'est une année de transition. Je vais en venir justement aux propositions qui sont faites. Ce parking ne va pas permettre de gagner de l'argent. Il va permettre d'atténuer la charge de fonctionnement inhérente à la commune sur tout ce qui est du petit au grand travers pour préserver la nature qu'on a voulu, on a dit, renaturer le site. On est resté dans cet esprit. Il n'est pas question qu'on change de cet état. Donc, on a opéré ce recul stratégique, nous avons nous voulons y associer, bien sûr, les Carnonais et les Melgoriens, où les Melgoriens seront plus pénalisés que les Carnonais. À l'image de ce qui s'est fait pour le parking 120 passagers à Carnon-Ouest, où un tarif préférentiel a été imaginé pour les riverains, cette année sera une année de transition, et nous étudierons effectivement, je m'engage à mettre en place une commission qui étudiera les modalités d'exploitation des petits parkings, de gestion de cet espace. Je précise quand même que j'ai pas fait ça dans le département. J'ai prévenu les services du département de cette initiative, puisque nous en avons la gestion, et qu'aujourd'hui, j'attire votre attention sur le fait que les communes riveraines, que sont la Grande Motte, 5 euros le parquet, Villeneuve-la-Maguelone, 5 euros, l'Espiguette, 5 euros, à des endroits où il n'y a pas les services urbains, j'allais dire, qui sont apportés. Faites-nous grâce quand même d'un procès qui consiste toujours à fonctionner. Si je vous écoutais, M. Bourguet, cela tendrait à dire que seul le contribuable continuera à assumer cette charge d'exploitation. J'ai travaillé pendant 4 ans en tant que conseiller général, 5 ans, à des groupes de travail. Il y a des personnes ici, M. Girard est dans la salle, il y en a d'autres qui ont travaillé, les associations environnementales seront la plage. Nous avons entendu cette volonté de laisser cet accès libre, cette plage, que ce lieu soit démocratiquement investi par la plupart des citoyens. Mais si à un moment donné, la gratuité pour les uns signifie payer pour les autres, je ne suis plus d'accord. Je pense que ce partage d'un cofinancement est une mesure relativement douce au regard du tarif qui est proposé pour la durée qui est également induite par ce tarif, à l'image de ce qui se fait à Clermont-Ouest. Et j'aurais pu dire que l'interrogation aurait dû être dans notre sens. On aurait dû dire, mais vous qui cherchez des recettes, pourquoi ne pas profiter quelque part d'une forme de tourisme, parce que nous sommes au bord de la mer, qui fait que, pour compenser un petit peu les 500 000 euros qu'on met chaque année dans la préparation de la saison, quand on pense aux forces de sécurité, quand on pense, disons, aux gendarmes, quand on pense à la CNSM, quand on pense au redimensionnement des services des saisonniers, quand on passe à la mise en place d'un service de propreté qui s'ajoute à celui qui existe, avec deux personnes affectées quotidiennement comme l'année dernière, quand on passe au doublement des effectifs de police municipale, eh bien, c'est, à mon sens, une modeste contribution à, disons, au maintien d'une vocation quand même naturelle d'un lieu qu'on a remodelé en le respectant, parce que je crois qu'il y a un respect de la nature, et quelque part, pour ce qui me concerne, au nom du groupe majoritaire, je pense qu'effectivement, nous devons affiner cette approche et voir comment, avec les Carmelites et les Belgoliennes, nous pourrions mettre en place une manière de modérer ce prélèvement supplémentaire que connaîtront les personnes qui utiliseront ce parking. Je rappelle que ce parking est un parking de 513 mètres. De vrai, peut-être 16 à 17, à 4 ans. Voilà. Et qu'il y a 1000 places qui est gratuite, du petit au grand travail. Voilà. Donc, sur ce sujet, je pense que tout a été dit. J'ai laissé la parole à un patron, parce que sinon, ça ne sort pas, parce qu'on ne va pas rentrer dans un débat.
Juste, je parlais du passé.
Voilà.
Avant, il y avait une route départementale.
Oh, voilà,
et tout le monde se garait gratis.
Voilà. Madame Comarno, ça va, c'était là-bas. Je pense quand même que j'ai largement exposé le point et que malheureusement il faut vivre avec son temps et que le transport collectif, comme l'a souligné M. Soleil, est une excellente alternative. Voilà. Donc nous passons au vote, libre à chacun d'exprimer son point de vue. Pour, lever la main. Contre, abstention. Je vous remercie. M. Claver, Jacques.
Rue Tartinière-Mouillot, dissimulation du réseau téléphonique. La commune a prévu pour l'année 2015 l'aménagement de la voirie sur la rue Tartinière-Mouillot. Ces travaux seront réalisés sur la totalité de la rue. Il est prévu la réflexion de l'empuissement du réseau téléphonique, téléphonique et éclairage public, ainsi que l'aménagement de la chaussée des trottoirs. La programmation des travaux est prévue pour le deuxième semestre 2015. Afin d'améliorer l'esthétique de cette rue, il est nécessaire de mettre en souterrain le réseau téléphonique, tant dans les parties privatives des habitations riveraines que sur la partie publique de la voie. Il convient de passer une convention avec France Télécom pour la dissimulation du réseau téléphonique. La commune prendra en charge le génie civil et les fournitures de matériel pour un montant estimé à 400 euros. Hors taxe. Les études de l'indépendance du réseau aérien ainsi que le câble seront réalisées par Orange pour un montant de 3 767 euros hors taxe. Le montant de cette dépense est prévu au budget primitif de la commune. Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal d'adopter la proposition dans tout son contenu et d'autoriser monsieur le maire et l'adjoint délégué à signer les documents relatifs à cette affaire.
Bon, merci Jacques, c'est un procédé classique avec le dialogue bien sûr avec les libéraux constructifs. Quelque chose qui vous propose. Allez, on passe au vote pour.
Contre, abstention. Je vous remercie. Laura, c'était avec Monsieur Sécurité.
Alors, je vais vous parler de la convention avec la CNSM. C'est habituel chaque année. Surveillance des plages, formation des nageurs comme auteur. Monsieur le maire français le rend conseil municipal que la surveillance des plages est à la charge de la commune. Pour ce faire, le conseil municipal doit créer des postes budgétaires saisonniers permettant le recrutement des nageurs sauveteurs. Par ailleurs, une convention de partenariat a été signée le 14 mars 2013 pour une durée de 3 ans avec la Société nationale de sauvetage en mer. Cette convention prévoit notamment que la SNSM est chargée d'assurer la formation, l'équipement individuel des nageurs sauveteurs, ainsi que la préparation et la gestion de leur affectation. Dès lors, conformément à cette convention, il convient de reconduire pour l'année 2015 le versement de la subvention de 7 euros par nageur sauveteur, soit 10 080 euros. Par ailleurs, en attendant la convention de 2013 doit être conclue pour la prise en compte de la modification de l'indice de rémunération du personnel saisonnier recruté. Monsieur le maire, demande à membres présents d'autoriser le versement à la SNSM de la subvention de 10 080 euros au titre de l'année 2015 et de signer l'avenant numéro 2 de la convention de 2013. Les crédits sont prévus au budget de la commune.
Merci Laurent. Pas de questions ? On passe au vote. Pour ? Contre ? Abstention ? Il n'y en a pas. Merci.
Alors encore quelque chose d'annuel. Personnel municipal, modification du tableau des effectifs. Conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Ces emplois figurent au tableau des effectifs de la collectivité par catégorie et cadre d'emploi. En raison du départ de la collectivité ou de changement de situation administrative suite à un avancement notamment, il est nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs. A cet effet, il est proposé de supprimer les emplois suivants occupés auparavant par des agents qui ont bénéficié soit d'une nomination dans un nouveau cadre d'emploi, soit d'une mutation dans une autre collectivité et qui ont été remplacés par des agents titulaires de grades différents. Voilà, vous avez le tableau juste en dessous. Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal d'adopter cette modification du tableau des effectifs.
Bien. Autre question, on passe au vote. Pour, contre, abstention, je vous remercie. Emploi saisonnier, tout le monde.
Allez, comme l'année dernière, personnel municipal, création d'emploi saisonnier. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal les créations d'emplois saisonniers envisagées. Comme chaque année, le 1er mai, du 1er mai au 34 mars, au sein des services municipaux doivent être renforcés pour faire face à la saison estivale. Ces recrutements non permanents s'effectueront sur la base de l'article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée relative à la fonction publique territoriale qui permet le recrutement d'agents non titulaires pour faire face à l'accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale accumulée de 6 mois par période de 12 mois. Aussi, Monsieur le maire propose la création d'emplois non permanents suivants. Pour la police municipale, 9 postes d'assistants temporaires. Pour les services administratifs, 11 postes d'adjoints administratifs deuxième classe. Pour les services techniques, 26 postes d'adjoints techniques de deuxième classe non titulaires. Pour le service vie scolaire et sportive, 13 postes d'éducateurs des activités physiques et sportives. Surveillance des plages, avec l'ouverture d'un poste à travers, il convient de créer des emplois saisonniers suivants. Un chef de secteur rémunéré sur la base de 1457. 6 chefs de poste rémunérés sur la base de l'indice brut 416. 6 adjoints de chefs de poste rémunérés sur la base de l'indice brut 375. Et 18 sauveteurs rémunérés sur la base de l'indice brut 342. Le recrutement des sauveteurs ainsi que les affectations sont établis en partenariat avec la SNSM qui est chargée de la formation. Bien.
Juste une petite question. Parce que je connais le cas de quelqu'un qui travaille dans les services techniques depuis 2 ans et son contrat est arrivé à terme fin avril. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire travailler dans le cadre des emplois saisonniers jusqu'au mois de septembre? Il y a peut-être d'autres cas.
Oui. C'est un contrat qui arrive à échéance. Et donc, l'emploi de saisonnier, c'est fait pour les gens qui ont pas la demande. Et c'est, ce ne sont pas des postes de permanent. Donc, on n'aurait pas pu prolonger.
Super petit.
Oui, je crois qu'on en avait parlé l'an dernier. Est-ce que c'est possible d'avoir une variation par rapport à l'an dernier, voire les deux, trois dernières années, pour voir si on reste dans des proportions similaires, ou si ça augmente, ou si ça s'évolue, sauf évidemment pour l'ouverture d'un poste de soutien supplémentaire, bien sûr.
L'objectif 2015, c'était 15% de réduction pour répondre aux contraintes financières qui nous sont imposées. On était parti sur une base de 15% de moins d'effectifs saisonniers, sauf qu'on a une décision municipale de créer un sixième poste. Donc on est à 5% de réduction. Mais on est en baisse.
Ça fait en poste, c'est combien en
fait? Ça fait 9 postes de moins.
La vocation du travail. Initialement, la coupe de la Nord, elle était parfois justifiée par quelqu'un qui partait à manger que l'on remplaçait, pas systématiquement. Elle n'était pas décomptée, cette affectation, elle n'était pas faite simplement pour satisfaire un besoin saisonnier. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire que la demande qui a été faite au directeur, au chef de service, était d'organiser un système de congé et de travail de telle sorte que la période estivale n'appelle pas une prise de congé par tous les personnels de matin, qui soit de nature à susciter un remplacement par du personnel saisonnier. Bon, le personnel saisonnier qui est affecté à Carnon est un personnel affecté à des tâches complémentaires, comme les agents de surveillance au public, parce qu'il y a davantage de monde et davantage de surveillance à faire. D'ailleurs, de même, une réunion sur les enclos, ici à Carnon, pour gérer justement cette difficulté que connaissent les gens des enclos. Donc, on a la SNSM, on a les forces de gendarmerie, et on a les saisonniers, l'affectation pour la propreté de la ville, dont j'ai parlé tout à l'heure, et le doublement des patrouilles de police. Mais ça, c'est parce que c'est du travail en plus. Donc, nous vous fournirons un tableau, M. Capelet, ici. Mais on aimerait être meilleur, si ce n'est que le service public a quand même des exigences. En fait, on a encore. On discute au courant,
on peut préciser que la SNSM a fait un gros effort quand on leur a dit qu'on était en période de restriction, c'est-à-dire que pour le même budget, on ouvre le poste, le sixième poste, ils ont fait des efforts énormes en fonction du matin, la mise à l'eau des bateaux, le temps qui était consacré à toute la mise en place, et de même, l'ont supprimé de la rémunération. Donc c'est à souligner. De bel exemple.
Bien. On passe au vote. Pour, contre, abstention. Je vous remercie. Ensuite, Jean, pas de point sur le. Ah, excusez-moi.
Je vais terminer.
Excusez-moi.
Non, c'est pas grave. À part l'approbation du règlement intérieur du personnel communal. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal du projet de règlement intérieur du personnel qui a été examiné par le comité technique du 31 mars 2015 pour avis. Ce règlement est destiné à tous les agents de la commune, titulaires et non titulaires. Il a pour objectif d'organiser les conditions d'exécution du travail dans la collectivité et en particulier de préciser certaines dispositions d'hygiène et de sécurité. Le comité technique a donné un avis favorable. Pardon. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur du personnel.
On y va ?
S'il vous plaît.
Oui, monsieur Romano.
Je voudrais savoir si le personnel concerné est marqué avoir pris connaissance du règlement.
Si c'est marqué.
Ou si on me remet vraiment. Les techniques, on peut être bien pris en compte les consignes.
c'est, je pense que le règlement est soumis au chef de service et le chef de service est en charge de la répercussion du règlement et informe tout son personnel du règlement.
Oui, monsieur Manon, vous faites référence à un dispositif qui existe dans une autre collectivité.
Non, non, mais allez-y.
C'est pas une collectivité.
Allez-y. D'où je viens, j'ai signé, comme quoi je viens des connaissances et compris que.
Bon, ben.
Non, c'était pour savoir si ça se fait.
Non, ça se fait pas chez nous.
C'est bien dommage.
C'est une belle idée. C'est une bonne idée.
Si vraiment il y a un gros problème, ce problème de
c'est vrai que réglementairement, on ne demande pas aux 350 agents de la commune de tout signer, c'est vrai.
On est très responsable,
on pourrait dire si. Il n'y a pas de nécessité formelle de l'authentifier.
Oui, la loi ne les prône pas.
Peut-être dans le cadre du comité technique paritaire réfléchir à cette proposition de ce modèle.
Sur la qualité de vote du comité technique paritaire, c'est un modèle d'unanimité ou il y a des réserves?
Non. On l'avait travaillé avec eux, donc c'est un vote à l'unanimité.
Oui.
Bien.
Oui.
Unanimité. On passe au vote peut-être? Il faut le voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Christian?
Tu prends le. Je me fais exceptionnel à l'association Chemin d'école. Suite aux événements dramatiques sur le niveau Népal le 25 avril dernier, M. le maire propose à l'Assemblée le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 euros au profit de l'association Chemin d'école qui œuvre pour la reconstruction d'un village du Kumbu. Basse région de l'Adresse. Ce village ne cherche pas à nouer des liens forts avec le pays de l'or et cette association a été créée initialement en vue de réaliser des infrastructures scolaires pour les enfants de ce village situé à 200 km à l'est de Katmandou. Ses représentants s'attacheront à accompagner la reconstruction des habitations démolies. Considérant les importants dégâts occasionnés, M. le maire demande aux membres présents d'approuver le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 euros à l'association Chemin d'école. Les crédits sont inscrits au budget de la commune.
Bien, je pense qu'il y a également lieu de mettre à disposition pour les dons spontanés à l'entrée de la mairie. Voilà, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, j'ai entendu à la radio que plus d'un milliard, 1,5 milliard est la somme promise, en tout cas, qui va s'y récolter pour. Parfois, à secourir les excellents, voilà, donc je vous propose de passer au vote de cette subvention. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Association pour la défense de notre patrimoine menacé par le doublement de la mer. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que les travaux menés par l'association pour la défense de notre patrimoine menacé par le doublement de la mer présente un intérêt certain, notamment via des propositions telles que la végétalisation des bordures de la neuf ou l'utilisation de revêtements routiers moins bruyants. Afin d'encourager ces initiatives, M. le maire propose d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 euros à l'association pour la défense de notre patrimoine menacé par le droit de la neuf. Concrètement, j'ai été sollicité par cette association que préside M. Flambos, qui rassemble des contribuables et des personnes qui adhèrent, disons, à cet intérêt d'une mitoyenneté entre Saint-Ouen et Montguyot, les Garrigues, d'un patrimoine qui est menacé par rapport à des craintes relatives à la végétalisation et à la manière d'alimenter et d'arroser ces plantations. Donc, nous avons rencontré M. Fandos à plusieurs reprises, avec plusieurs personnes. Nous avons donc adhéré à cette cause après avoir, disons, recueilli la vie des riverains et je propose donc de l'aider dans cette vigilance, même si je dis que nous avons d'excellentes relations avec M. Nunez, qui est le responsable local de Salvador Nunez des travaux faits pour le compte de l'État par la SF et que le dialogue est toujours très constructif et que c'est une
terme d'une vigilance qui, je pense, portera ses fruits. Les deux parties étant vraiment déterminées à trouver les termes d'un accord qui satisfasse à la fois les exigences de l'entreprise et l'exigence des personnes représentées par M. François. Voilà. Je vous propose qu'on passe au vote pour, contre, l'abstention. Je vous remercie, vous voyez qu'on s'est prononcé des décisions pour protéger l'environnement, pour empêcher de le dire. Jacques, tu peux bien prendre la suite.
Cette situation concerne les questions de voler, comme on dit. Et comme je suis à l'autre sortie, je remercie par là, je pourrais être limité. Dans le cadre de la participation de l'équipe première de la SOS de volleyball de Montréal, l'évoluant national 2 féminine est qualifié pour le plus haut partition en élite. Le plan est en dire mais à Caen, il est proposé une aide au déplacement et au logement de l'équipe. Le caractère exceptionnel de cette qualification est considéré pour une association de l'économie de la SOS de Montréal. Ce déplacement et ces dépenses n'ayant pas été prévus dans le budget provisionnel de l'association, la commune souhaite donc envoyer une situation exceptionnelle. C'est une équipe féminine qui fait très bon résultat, qui est amateur à 100%, qui prend pas les centimes, et c'est un environnement professionnel. Donc c'est une équipe qui est importante et même qui est nécessaire pour pouvoir participer à cette réunion. Monsieur le maire propose de participer à cette fête en versant à la SOS une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 €. Il demande au conseil municipal de bien vouloir autoriser le versement de cette subvention et la signature des conventions qui en découlent.
On y va pour, contre, abstention.
On vous remercie. La SOS toujours mis des canons. Suite au titre de vice-champion de France du circuit Catan, obtenu en mars 2015 par les financiers du club Dojo Amitié, le président de l'association sollicite la municipalité pour une aide exceptionnelle liée au déplacement pour le championnat d'Europe prévu à Liège du 22-24 mai 2015. Ce déplacement n'a pas été prévu dans le budget provisionnel. Le président de l'association sollicite la commune pour l'octroi d'une subvention professionnelle. Monsieur le maire propose de participer à ces frais en participant à l'association Dojo Amitié, car une subvention exceptionnelle d'un montant de 200 euros. Il demande au conseil municipal de bien vouloir autoriser le versement de cette subvention et la signature des conventions qui en découlent.
On passe au vote pour, contre, abstention. Je vous remercie. Jean, c'est à toi.
Monsieur le maire propose d'attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 euros à la municipalité de Mondeau-Carnon pour le dépassement de la section Gora à la Beauvaise, ville jumelle italienne. En mai 2015, cette subvention contribuera à financer le transport et les frais d'hébergement des participants dans le cadre d'un spectacle organisé à Beauvais par les chorales des deux villes. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de bien vouloir autoriser le versement de subvention exceptionnelle et la signature des conventions qui en découlent.
On se vote pour, contre, abstention. Je vous remercie.
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que le siècle de la dépense hélanique dans le siège situé sur la commune peut au quotidien pour la défense de la laïcité, véritable socle de notre République et garantie notre lien ensemble. A ce titre, monsieur le maire propose d'attribuer au cercle local de la dépense hélanique de Montreux une subvention de montant de 100 euros.
Monsieur Romano, oui. C'est très bien, je considère ce cercle d'utilité même patriotique. Et je souhaiterais que le montant soit bien le monde. Si vous voulez faire un don, effectivement, c'est tout à votre honneur.
Je ne connais pas.
Surtout que c'est un enseignant qui est le président. Voilà. Écoutez, on transmettra les besoins de l'association. On est autant dans le symbole que dans la somme qui est donnée, puisque le but c'est de faire fonctionner les frais inhérents à toute association et à respecter les cercles de pensée. Et le cercle de vie qui nous paraît un cercle de pensée. Bonjour à tous. Voilà.
Contre, pas d'abstention.
Merci.
Voilà, c'est aussi, on revient à Carnon, on revient à Carnon.
Alors, le plus d'appart, au gouvernement de la mise à disposition d'un terrain à Carnon, monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que la fête foraine s'installera à Carnon pour la saison d'été 2015,
si vous plaît.
Juin, auquel septembre 2015 inclus. À ce titre, il convient de signer avec l'association Organisation Animation du Parc d'Attraction de la ville de Carnon une convention de mise à disposition d'un terrain. Le montant de la redevance pour l'année 2015 est de 20 525 € net de taxes. La présente convention a pour objet la mise à disposition d'un terrain à Carnon, le long de l'avenue Jean-Baptiste Solignac et de l'avenue des Comtes de Melgueil, selon le plan Jouen, pour l'exploitation de manège forain durant la saison estivale 2015. L'alimentation et la consommation électrique nécessaires au fonctionnement du parc d'attraction, ainsi que le nettoyage journalier du site, sont à la charge des forains. Monsieur le maire demande à l'Assemblée d'approuver cette convention et de l'autoriser à la signer.
Bien. Madame Commandos. Et monsieur.
Je remarque que la somme correspond à un peu moins de 7 000 € par mois. Ceci juste pour l'espace occupé par les manèges et qu'il n'ait fait allusion aucunement au village de caravane des personnes qui gèrent ces manèges. Dans l'arrêté municipal, on parle de baisse de niveau sonore, mais il n'y a aucun engagement sur le nombre de décibels pris à quel endroit. On parle de police municipale présente à Carnon, mais ses horaires de fonctionnement ne vont pas jusqu'à 1h du matin passé. La gendarmerie pourrait en effet prendre relais, mais je veux dire, ils sont vigipirates et c'est quelque chose de subjectif pour eux. Madame Julie m'avait parlé qu'elle avait un téléphone portable qui enregistrait les décibels. Donc il suffirait qu'elle sache, et Madame Gély est adjointe au maire, et en tant qu'adjointe au maire, elle peut dresser procès verbal si elle a des problèmes à ce niveau-là. J'ai formé des gens à dresser des procès-verbaux en matière de protection de l'environnement. Donc je suis à la disposition pour qu'il y ait une suite. Parce que le problème, c'est que même si les gendarmes viennent, il n'y a pas de suite et les décibels ne baissent pas. Voilà. Donc le contrat n'est pas un arrêté préfectoral, un arrêté municipal. Il n'y a aucun moyen de vérifier le nombre de décibels qui sont donnés aux différentes périodes.
Monsieur Capelletti, dernière intervention, vous pouvez répondre là-dessus. Madame Gély, je vous répondrai.
Donc, de nombreux carnets nous ont fait part. Je pense aussi à Madame Gély, donc de deux grandes questions. Les mesures d'accompagnement, de maîtrise des nuisances. Comme Madame Combarous vient d'évoquer, qu'est-ce qui va être fait concrètement cette année, notamment pour les nuisances sonores, etc. Puisque l'an dernier, il y a quand même eu des nuisances qui sont remontées. Et le deuxième point, c'est qu'en est-il de l'étude d'un déplacement d'une appart, puisque un certain nombre de Carnonais, de riverains s'interrogent sur la pertinence de déplacer le Luna Park de son espace actuel vers un espace où il serait plus approprié. Est-ce que vous avez étudié des études menées en ce sens? Où en est-on? Ou est-ce que non, ce sont des rumeurs et pas non, il n'y a pas d'interrogation.
Monsieur Bradley, dernière intervention.
Cette foi pose problème aux riverains. On sent bien qu'il y a une ambiance sonore qui est pas bonne à Carnon. Donc, quelles sont les difficultés rencontrées? De deux ordres, je ne suis pas sûr que dans la convention on ait indiqué les contreparties en termes de sanctions s'il y avait un dépassement des décibels Donc on n'a pas rédigé un plan hôtel, donc je ne suis pas sûr que ce soit juste un engagement lyonnais de la part de l'association. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie qui me dérange un peu plus, c'est cette forme de convention associative. On s'en était déjà parlé l'an dernier. Je ne pense pas que ce soit une forme stable en termes de droit, et ça nous met un peu. On se préférerait une régie directe et simple. L'argument de M. le maire l'an dernier avait été de dire que ça nous permettait de mettre cette clause de nuisance sonore dans la relation. Et on s'était dit aussi l'an dernier qu'on avait les comptes de l'association. Et depuis un an, on n'a pas retravaillé. Moi, je ne vous ai pas redemandé les comptes. Si on avait les comptes de l'exercice, ça serait une bonne chose. Je préférerais, moi, franchement, qu'on ait une régie publique très simple, parce que c'est vraiment cette association, moi, cette relation à l'association, je pense que ça nous fait un peu clocher, on est un peu un peu choqués, on n'est pas très stable en termes juridiques. Voilà ce que j'ai. Et puis bon, il y a des bruits qui disent qu'on pourrait envisager de déplacer la forme si vous avez des indications plus précises. Je pense que le public carbonais est très attentif.
Je voudrais juste enfoncer un petit peu le clou par rapport à la régie, puisque on a vu tout à l'heure qu'on était à la recherche d'argent, de 3 euros par jour pour les gens qui viennent se baigner. Là, à 20 000 euros par an, on est à moins de 10 euros par jour pour les forains qui s'installent sur ce domaine. Je crois que c'est un prix défiant toute concurrence. Par comparaison, la foire de Palavas rapporte 450 000 euros à la commune. Je dis bien 450 000 euros. On ne parle pas, comme l'a dit Christine, de l'implantation des caravanes. On ne sait pas si c'est gratuit ou si c'est en plus. Donc je pense que là, en plus, en étant en régie, ça permettrait de gérer le type de manège qu'on veut, le type d'installation, et de refuser ceux qui n'ont pas respecté les chartes et ne reviendraient pas l'année d'après. Ça serait tout bénéfice pour la commune et ça éviterait de rendre le parking du petit travers payant.
Bien. Laurence, tu es là ?
Oui. Alors moi, je voudrais répondre sur la partie que je connais bien, qui est le tourisme à Carnon. Le Luna Park est une activité qui attire beaucoup de familles, puisqu'on n'est pas sur le même profil que le Luna Park de Palavas. Nous, c'est un Luna Park familial. On a beaucoup de familles et au niveau de l'office du tourisme, beaucoup de retours extrêmement positifs. Alors, il y a eu une rumeur comme quoi il allait être déplacé cette année. Ce matin encore, quelqu'un est venu à l'office de tourisme pleurer le déplacement de Luna Park ou la disparition de Luna Park. Quand même beaucoup de gens qui sont attachés et qui ont plaisir à y aller. Au niveau de la nuisance que cela procure, il y a effectivement des gens qui s'en plaignent et des gens qui habitent à côté qui ne s'en plaignent pas. Donc, effectivement, il faut voir avec les responsables comment faire pour diminuer les nuisances, sachant que ça, c'est plutôt le côté de Patricia Moulin-Trafort qui vous en parlera. Et donc, il y a un travail qui a été fait. En ce qui concerne, c'est M. Cabelletti qui m'a interrogé sur les nuisances sonores sur le port, sur le travail qui a été fait.
Non, sur quelles mesures d'accompagnement, justement, vous prévoyez cette année pour
mesurer
sur les nuisances sonores qui sont remontées.
Excusez-moi, vous parliez du Luna Park.
Oui, du Luna Park.
Je vous en sur le port, donc je vous en parle. Luna Park,
mais si on a voulu parler du port, c'est mieux aussi.
Alors, je vais vous parler du port.
Et
c'était la raison pour laquelle.
Je vous demandais si. Donc, ok, il n'y a pas de déplacement, mais si vous étudiez un déplacement possible ou pas du tout. C'est ma question.
Alors, sur la question du déplacement, j'ai préparé d'autres personnes que moi. En ce qui concerne l'appareil que j'ai, alors ce n'est pas sur mon téléphone, c'est sur l'iPad. Effectivement, c'est pour mesurer la puissance sonore. Alors, cet appareil, je n'avais pas. C'est une application gratuite, hein, je n'ai pas beaucoup de mérite. Hein. Je ne l'avais pas téléchargé pour parler du Luna Park, mais des nuisances sonores qui ont eu lieu sur le port de Carnon l'été dernier. L'été dernier, il y a eu une surenchère de bruit de la part de différents bars qui, d'habitude, ne faisaient qu'une animation, je crois que l'animation extérieure des bars, hein, je parle bien de ça. Donc, habituellement, les animations ne se faisaient qu'une fois par semaine, et puis il y a une surenchère qui a fait que tout à coup, en plein milieu de saison, tout le monde s'est mis à faire des animations, c'était terrible sur le port. Donc, en commun avec l'association des commerçants de Carnon
et le comité directeur de l'office de tourisme de la station, on s'est mis d'accord sur un arrêté pour réglementer les animations des bars et mettre tout le monde à égalité, hein, qu'il n'y en ait pas un qui ait trois animations possibles et l'autre qui en ait qu'une. Donc la réglementation qui aura lieu cet été sur le port de Carmont, c'est en dehors de l'animation qui est tourisme, pas plus d'une animation par bar par semaine, arrêt des animations à 23h30, et si karaoké, alors là on va éviter karaoké, on maintient pas, parce que quand on habite au-dessus d'un karaoké, c'est pas forcément, enfin, ça dépend du chanteur. Donc là on a demandé arrêt du karaoké 22h30, avec poursuite possible d'une ambiance musicale jusqu'à 23h30. Ça c'est un compromis pour que les gens qui habitent au-dessus revivent et que les touristes aient toujours plaisir à venir dans notre station, sachant que c'est un public familial que l'on vise.
Bien, je vais prendre le relais sur ce qui est le rumeur, je crois que c'est la spécialité de certaines personnes, mais il y en a ici comme ailleurs. Donc, à ma connaissance, on n'a pas fait de groupe de travail sur le déplacement du Luna Park. Dans le Luna, il y a la Lune, peut-être que certains y viennent, ils resteront, je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que ça peut gêner l'exploitation d'une fête foraine, peut gêner les riverains. Nous en sommes conscients. Au fil des ans, je tiens à vous dire qu'il y a eu un dialogue, je dirais pas constructif, je dirais restrictif, imposé auprès de cette association en lui demandant, en exigeant la suppression de certaines manifestations telles que des tirs de feu d'artifice à certains moments qui ont été purement et simplement supprimés. Il y a eu une réglementation qui est allée avec des restrictions dont je vous lis un extrait. L'association s'engage à faire respecter par tous les forêts présents sur le site un horaire d'activité en raison de nuisances sonores pouvant affecter le voisinage immédiat des installations. À partir de 22h, baisse significative du niveau sonore. À partir de 23h30, arrêt total des animations musicales et des sonorisations. 1h, fermeture du parc. En cas de constatation de dépassement d'horaire par les services de police municipale, qui est bien présente sur le du matin, le vendredi et samedi, la gendarmerie est là dans la semaine, et après injonction auprès du responsable de l'association, la présente pour être purement et simplement résiliée pour une observation des obligations que demande l'association. Voilà. Donc, si vous voulez, nous avons toujours pris en compte les attentes des riverains, de manière peut-être imparfaite et insuffisante, puisque nous avons un contentieux avec certains d'entre eux. Donc, nous essayons de trouver de manière constructive un équilibre entre le fait que le Carmonais a besoin de repos comme tout citoyen, mais qu'il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans une station estivale, que c'est l'été. Ce qui ne veut pas dire que tout est permis, n'importe comment, n'importe quand. Et je pense que les mesures qui ont été arrêtées sont plus une garantie vis-à-vis du voisinage sédentaire carbonais qu'un appel à un tourisme en Ukraine. Et on est bien dans le caractère de Sonia Raspiri tout à l'heure, d'une clientèle familiale, ou même certaines manèges qui ont été repérées comme étant générateur de niveau sonore qui était difficilement acceptable. Il a été demandé à l'association, je ne sais pas les conditions qui ont été arrêtées, d'en déménager, d'en déplacer un, essayer de trouver un angle d'exploitation moins contraignant, il a même supprimé, ils en ont supprimé un, ils en ont supprimé un autre. Donc, je tiens à dire que les exigences vis-à-vis de ce syndicat, elles sont fortes et elles sont allées crescendo. Je puis vous dire que la tolérance est de plus en plus restrictive. Elle ne s'est pas élargie. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne du tarif, nous avons appliqué une augmentation de 2%. Alors, c'est vrai que si on compare, on peut comparer aussi avec ce que rapporte un casino au mètre carré. On ne va pas tout comparer.
Bon, on va considérer à l'origine, et je ne suis pas le destinataire, on a considéré à l'origine que cette association était destinée à amener une animation, un plus quelque part, à la station, moyennant des dispositions d'exploitation de gré à gré au départ, dans un esprit qui était, écoutez, nous on vient pour gagner notre vie, pas n'importe comment, on se pliera à vos exigences, et la station a toujours quelque part bénéficié de cette attractivité. Voilà. Donc je connais ce sujet qui revient, nous sommes vigilants, nous le serons encore cette année, et si un jour on décide de faire quelque chose, nous avons notre habitude d'avertir les Carbonais. Quand on décide quelque chose, on peut le quotidien et pour le ramener.
Ce serait bien qu'on sache combien payent les forêts à l'association. C'est le minimum.
Oui, mais notre interlocuteur est le président de l'association.
Mais il faut lui demander les comptes.
Alors, monsieur Bourguet, si vous voulez, voilà. Ouais. On vous le donnera. On lui demande à tous les soirs. Donc, je vous demande maintenant de. On est mettant en compte rendu de ce conseil. Ouais. On passe au vote pour cette convention. Contre, abstention, 2. Merci.
Le point numéro 20, approbation des conventions de partenariat pour la Romerie Agri-Kent. Monsieur le maire, expose aux membres du conseil municipal que plusieurs partenaires sont prévus dans le cadre de la Romerie. Premièrement, un partenariat de la communication. Dans le cadre de la 27e édition de la Romeria, il est proposé de signer une convention de partenariat avec la société Intermarché pour un montant de 2000 euros TTC destiné au paiement du spectacle équestre La Doma Vaquera, organisé le samedi 6 juin 2015 par Olivier Boutot. Cette somme assurera à la société une visibilité sur les supports de communication de la manifestation, présence du logo aux côtés des partenaires médias, radio et presse, et de pouvoir apposer une banderole aux arènes de Mouglio. Monsieur le maire demande au membre présent de l'autoriser à signer la convention de partenariat que cité.
Bien. Question ?
Oui, une question un peu à la marge. Puisque cette Romeria, cette année, ne sera pas... Une association qui est à l'origine de cette Romeria sera très peu impliquée dans l'organisation. Elle travaille avec son énergie, avec le bénévolat d'une association. Est-ce que ça va coûter plus cher à la commune, cette municipalisation, entre guillemets, de la Romeria ?
Donc, effectivement, la non implication de cette association qui portait la Romeria jusqu'à maintenant est complètement indépendante de notre volonté, de notre propre volonté. Donc il a fallu faire avec les moyens du bord et assurer une Romeria sans cette association. Voilà ce que je peux vous répondre.
Côté identique.
Et c'est le même. Même point de vue.
Je précise que la commune travaille toujours avec les associations qui sont partenaires. Et ce partenariat, cette année, n'est pas du fait de la commune. Je ne vais pas rentrer dans une explication qui n'intéressera pas l'assistance ni les conseillers tout autour. Mais ce qui compte, c'est que l'événement se déroule de la meilleure manière et qu'il soit toujours dans le cadre initial et qu'il ne coûte pas plus cher qu'il l'a coûté les années précédentes. Voilà ce qui est le cas. On passe au vote, si vous voulez, pour, contre, abstention. Je vous remercie.
Bien, deuxièmement, le partenariat de démonstration pour les Sévillanes dans le cadre de la 27e édition de la Romeria, la société Tendance Flamenca s'engage à soutenir la Romeria par l'attribution de l'eau aux danseurs de Sévillanes évoluant sur le podium central, en échange de la mise à disposition gratuite du domaine public pour l'installation d'un stand de robe et d'articles de flamenco. Monsieur le maire demande au membre présent de l'autoriser à signer la convention de partenariat précité.
Bien. Passe au vote. Contre, abstention, n'importe. Merci.
Ensuite, le dernier partenariat, c'est le concours de Paella. Dans le cadre de de la 27e édition de la Romerie à la Somme s'engage à remettre un chèque d'un montant de 500 euros à la commune pour récompenser les gagnants du concours de Paella en échange de l'acquisition du banderole aux arènes de Mouillot. C'est le maire de Mandement pour présenter l'autorisation de la convention de partenariat.
On se vote pour, contre, abstention, ou pas, merci.
On passe maintenant à l'exposition récréation de 2015. Monsieur le maire propose membre du conseil municipal et convention de partenariat conclu dans le cadre du projet Récréaction. L'exposition récréation se tiendra à la galerie d'art de l'espace Morastel du 29 mai au 19 juin 2015. Il s'agit d'exposer le travail réalisé par 5 classes élémentaires de la ville à la galerie d'art, avec les artistes François Bouet et Dominique Doré, et les œuvres personnelles de ces deux artistes. Pour mener à bien les ateliers de création artistique, les entreprises ont accepté de mettre à disposition des matériaux. L'entreprise Pratibi a fourni des pièces de ferraille pour un montant de 124,80 € TTC, et l'entreprise Peintural des pièces d'or pour un montant de 80,50 € TTC. Ces entreprises verront leur logo apposé sur les affiches et flyers de communication édités pour la manifestation. Monsieur le maire, pour le moment, vous présentez l'autorité par la machine des conventions de partenariat.
On y va. Pour, contre, abstention, merci. On passe.
L'office de tourisme de Mont-Vieux-Carmont est un établissement public à caractère industriel et commercial, éthique, depuis sa création en 1984. Cette structure initie des actions collectives de qualité sur les territoires de Mont-Vieux-Carmont. L'OMC se voit confier la responsabilité de développer la fréquentation touristique sur la zone touristique de la commune de Mont-Vieux-Carmont. Par délibération en date du 10 février 2014, le conseil municipal a approuvé le dossier de classement de l'office de tourisme en première catégorie dans le cadre de la réforme instaurée par l'arrêté du 24 juin 2011. Il est donc proposé à l'Assemblée de bien vouloir approuver les statuts de l'office de tourisme de Mont-Vieux-Carmont, joint en annexe. Alors, c'est peut-être pas utile de relire les statuts, si vous avez des questions dessus. Moi, je voudrais juste en profiter pour remercier Francis Nias, qui est dans le public, qui est le vice-président du comité directeur, qui signe fait non, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Il y a un autre membre du groupe de travail qui est au fond également, que je remercie, ainsi que les élus qui viennent régulièrement au comité directeur, et le maire qui n'en a pas manqué un seul depuis le début. Merci.
Ça, moi, je ne vais
pas vous dire. Voilà, je suis pas très bien.
D'autres questions, on passe au vote. Pour, contre, abstention, non.
Non, c'est l'approbation.
Non, c'est l'approbation, tu m'as impliqué. Ce coup-ci, tu es historique. Dominique, tu m'as demandé que nous parlions de sport.
Un port de carbone. Monsieur le maire expose aux membres présents ici le transfert du fonds de commerce et de l'immobilier de la société Soderès à la société Carmont-Présent, représentée par M. Cournat, il convient de modifier le bénéficiaire des deux lots sur l'aide de carénage. Les activités de la société Carmont-Présent sont vente de bateaux neufs et d'occasion. Réparation et entretien du type de bateau, réparation et culture des coques des bateaux, fabrication et réparation des tours et bâches de poissons, fabrication et réparation de selles des bateaux, poste la castillage. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de proposer le transfert d'obligation de la société Soderès à la société Carmont Présent et de l'autorité à signer les conventions qui ont été signées.
Bien, merci Dominique, donc ça ne change rien. Il y a quelque chose?
Non.
Non. On se vote pour, contre, abstention. Je vous remercie. Dernier point.
Port de Carmont. Monsieur le maire expose au membre présent qu'il a été décidé l'installation d'une nurserie artificielle pour l'arbre de poissons dans le port de Carmont. Cet habitat artificiel permet de réhabiliter la fonction écologique de nurserie des petits fonds rocheux et sableux qui ont été dégradés et vise à restaurer le service écosystémique de nurserie en protégeant les postes larves et les jeunes recrues de la prédation, leur permettant ainsi d'atteindre la taille requise afin de contribuer efficacement à l'accroissement des populations adultes. Monsieur le maire propose de solliciter auprès de l'agence de l'eau une aide financière la plus élevée possible au fait de financement de ce projet situé à 27 200 en face, soit 32 840 et autoriser le maire ou la ministre déléguée à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Voilà donc la partie de l'œuvre. Vous voulez intervenir?
Juste pour montrer que peut-être qu'on aura une subvention partiellement, mais je me demande si c'est vraiment quelque chose qui va être utile aussi bien pour la faune locale que pour les plaisanciers et les pêcheurs professionnels. Véritablement, il y a quelque chose à creuser et qu'on ne soit pas que des renfloueurs de sociétés qui ne savent plus où mettre leur casier. Voilà, c'est tout.
Je pense, comme en nous, que c'est plutôt une mesure qui tend à la préservation du milieu qu'une mesure qui tend à sa destruction. Bon, alors, la nurserie, c'est prometteur.
Oui, mais si on fait une commission, on verra qu'il y a des gens avec des avis différents et des inquiétudes. Il faut absolument que ces gens qui ont des inquiétudes puissent dialoguer et qu'on puisse faire un suivi de ces appareils qui risquent un jour d'être un danger pour la navigation.
Bon. Monsieur le chargé du port, notre chargé de.
Monsieur le ministre, d'abord il n'y aura pas de commission, je suis désolé parce que vous mettez des commissions de partout, il n'y a pas de commission. La nurserie va être installée par une société spécialisée, avec des ingénieurs spécialisés, on va les installer. Il n'y aura aucun danger pour la navigation, il n'y aura aucun danger pour la navigation parce qu'elle ne prend pas.
Les ingénieurs spécialisés sont là pour travailler pour eux et pour faire rentrer des sous dans leur entreprise. Alors nous, on a quand même à dire quel est notre besoin.
Bon, on vous a entendu, madame Comarnon, sur cette belle conclusion. Je clôture cette séance en remerciant. Ah, ils m'ont compté, on fait avec moi. Vous avez failli me faire oublier. J'ai failli aussi le jour histoire. Bon, comme, attention, vous allez pas vous enseigner, frère. Ah, c'est bon. Allez, voilà. Je vous remercie pour votre participation à cette conférence municipale. Je vous donne un rendez-vous. Je vous donne un rendez-vous. Lundi 29.